apparaître dans le compte de fonctionnement. Donc ça va complètement déséquilibrer cette année l'arrêté des comptes, puisqu'on ressort cette année, comme vous pouvez le voir, avec un total produit de 4 128 000 euros, qui est à peu près, lui, équivalent à ce qu'on avait l'année précédente, hein, globalement. Donc celui-ci, il n'y a aucune annotation à faire dessus. Par contre, dans les charges, on se retrouve avec 4 438 000 euros de charges, dans lesquelles sont intégrées, je vous les fais réapparaître en bas, 987 000 euros de charges exceptionnelles. Vous voyez sur la colonne de droite. Ce qui nous fait ressortir, quand on fait le total entre 4 438 et 4 128, un déficit de 310 000 euros pour cette année. Mais enfin, on le verra un petit peu plus tard dans le compte, dans les comptes globaux, on a retiré justement les 987 000 euros de cette opération. On verra apparaître en fait les réelles données hein, de cette opération.
La conclusion de tout ça, c'est que bon, là, c'est une présentation comptable. Avec des mouvements finalement financiers qui sont totalement comment dire non monétisés, enfin voilà, qui sont transparents, mais il y a une opération fantôme qui n'apparaît pas là-dedans. Et l'opération fantôme, ça a consisté effectivement à augmenter de manière artificielle notre excédent du budget 2017. Voilà, mais c'était la solution comptable que nous a imposé sans doute à raison le trésor public. Donc là, ça rend les choses un peu compliquées à expliquer.
Il faudrait, pour avoir on va le voir après, hein, par la suite, en fait, des 4 438 000, il faut retirer les 987 000 euros d'opérations de charges exceptionnelles pour avoir le montant réel de nos charges réelles, en fait, et auquel il faudrait retirer les... Ça vient en déduction des 4 128 000 de produits.
Bon, ça donne une idée, sachant que derrière ça, il y a quand même tout ce qui est opération d'ordre, etc., qui vient complexifier cette affaire-là. Mais vous allez avoir une idée beaucoup plus concrète des comptes dans les pages qui suivent.
On va aller maintenant sur... Voilà, on va le voir beaucoup plus clair dans l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement. Voilà, on va pouvoir comparer d'une année sur l'autre... Vous voyez, on voit toujours apparaître, bien sûr, les 987 000 de charges exceptionnelles, mais après, en charge de personnel, on est à 1 489 000, on était en dernier à 1 477 000. En charge à caractère général, 1 262 000, on était à 1 285 000. Autre charge de gestion courante, on est à 415 000, on était à 551. En intérêt, on est à 122 000, on est à 130, et donc on a toujours cette charge exceptionnelle qui vient ressortir. Donc, mais... on voit en fait bien apparaître là les comptes plus clairement en fait. Hein.
Mais qui encore une fois n'a aucune réalité, hein, puisqu'on avait gonflé par ailleurs une autre chose sur une opération fantôme qu'on ne peut même pas faire figurer là dans les comptes 2018. Mais derrière, il n'y a pas d'argent en tant que tel. Ce qui en ressort là quand même, c'est que... je me suis amusé à faire un peu la somme de 2017 en dépenses de fonctionnement et de 2018. C'est toujours des chiffres... Il est très facile de dire après, de faire des commentaires élogieux ou pas. C'est toujours un peu complexe quand même à analyser, parce que ces chiffres, ils comprennent notamment en fonctionnement tout ce qui est chauffage, pour ne prendre qu'un exemple. Et il est évident que le chauffage dépend de la météo. Donc, tirer des conclusions très, très pérennes, parce qu'on voit d'un seul coup... le budget de fonctionnement qui diminue, mais alors qu'il n'y a pas eu de gelée dans l'année ou très peu, évidemment, ça laisse place à... Il faut être prudent et prendre du recul. Néanmoins, lorsqu'on regarde les comptes 2017 et qu'on fait la somme de ce que vous avez qui est affiché, on arrive à une somme de 3 446 000 euros. Voilà. Lorsqu'on fait la somme de 2018... on arrive à 3 298 000 euros, soit un différentiel, comme vous le voyez, assez important, de l'ordre de 150 000 euros entre les deux. Encore une fois, il faut être prudent, parce qu'on pourrait dire, oui, on a gagné 150 000 euros sur le budget de fonctionnement, j'y mets tous les bémols qui peuvent y être. Par contre, quelque chose qui, là, est très factuel, c'est qu'en termes de périmètre, entre 2017 et 2018, on est resté sur le même périmètre, à l'exception de l'espace Dagobert qu'on a intégré. L'intégration de l'espace Dagobert sur les coûts de fonctionnement nous a coûté 53 000 euros. Hein, 53 000 euros d'une part en personnel et d'autre part sur les fluides, enfin tout ce qui est maintenance, fonctionnement, etc. Et ça, c'est quand même factuel. Ça veut dire que, voilà, que vous voyez ce que c'est. Bon, il y a une diminution de 105. Si on fait la même chose et on ajoute, pour être à périmètre constant, les 53 000 euros, la différence, c'est 206 000 euros. Donc, vous voyez que les coûts de. Le budget de fonctionnement est loin d'exploser. Il est au contraire, effectivement, en diminution. Hein, mais encore une fois, l'an prochain, on aura peut-être un hiver à moins 10 pendant 3 mois. Et bon, maintenant, sur les conditions météo, 2017 et 2018, il y a peut-être eu des écarts, mais je crois, c'est pas énorme. Donc, voilà.
Il peut y avoir des travaux prévus, il peut y avoir des opérations
sur lesquelles, voilà,
c'est variable suivant les années. Hein.
C'est variable suivant les années. Après, il y a des tendances. Mais en tout cas, vous constatez que le budget de fonctionnement est loin d'exploser et au contraire, il est plutôt en régression. Voilà. Donc on va en diminution.
On va avoir après la répartition en fait de ce en pourcentage. Hein. Enfin, on a fait un camembert qui permet un petit peu de voir quels sont les pourcentages de chaque ligne. De toute façon, charge de personnel, ce qui est logique, hein, 35%. On a après les charges à caractère général. Voilà. Ça, c'est...
Bon, en général, dans les communes et les organismes, on est plutôt sur les charges de personnel autour de 42-43%. On en discutait en commission avec la commission et les membres de la commission des finances. Donc on peut dire quand même que là, on est, de ce point de vue-là, on contrôle parfaitement et on maîtrise parfaitement cet aspect-là, puisqu'on est bien en dessous.
Bien. On va aller maintenant sur l'évolution des recettes réelles de fonctionnement. Alors, sur ce tableau-là, en fait, là, il n'y a aucune intervention de l'opération CIVOM qui intervient, hein, puisque là, on a absolument aucune opération. Donc, on peut bien juger d'une année sur l'autre ce qui se passe. Et on voit, en fait, que dans les recettes de fonctionnement, on a sensiblement quasiment les chiffres à peu près équivalents à l'an dernier. Hein. Quand on regarde les impôts et taxes, 2 977 pour 2 972, les dotations 633 000 pour 630 000, on est globalement vraiment là dans des opérations quasiment similaires. On peut voir apparaître 113 000 euros d'exceptionnel qui est la vente du bâtiment pour la maison médicale.
Et, et du camion brûlé.
Et du camion brûlé en remboursement d'assurance.
La somme des deux, on a à peu près autour de 95-97 000 euros. Donc voilà.
Donc on a le même tableau que tout à l'heure en répartition. Mais bon, là, il n'y a rien de secret là-dedans. Hein, c'est toujours.
Le seul point que je vois dont on pourrait évoquer, c'est la partie dotation-subvention. Si, bon, on a légèrement monté, on a stabilisé, on était à 630, l'an dernier on est à 633, mais de mémoire, en 2014, ça représentait à peu près un tiers. Vous voyez que là, on en est à... on en est à peut-être 20% ou quelque chose comme ça. Quoi. Hein, à peu près, hein. À peu près un cinquième. Voilà.
Alors, on va aller sur l'évolution de la section d'investissement. Alors là, on a de la même façon qu'on avait tout à l'heure, on avait voté en juin sur la section d'investissement un montant d'1 091 015 qui réapparaît en section de fonctionnement au titre du CIVOM.
Sur les recettes.
Alors, de la même façon que tout à l'heure, il y a une partie qui intervient en compte budgétaire, hein, pour 1 091 000, et une autre partie que l'on voit apparaître dans le report de l'année. que vous verrez apparaître dans le report de l'année quand on votera le budget 2018 très prochainement.
Compte administratif.
Dans le compte administratif. Voilà. Donc automatiquement, c'est pareil. Là, de la même façon, vous avez une compensation qui se fait pour le même montant. Là, on est vraiment pour au centime près. Donc qui déséquilibre le compte de fonctionnement de la même façon, mais qui globalement, à l'arrêté des comptes, ne changera rien en fait.
Enfin, c'est la section d'investissement.
Pour la section d'investissement.
Bon, j'aurais bien aimé que Paula ce soit pas que virtuel, mais c'est virtuel parce qu'on a une recette de 2178.
Ouais, c'est pas mal là. Hein.
Et non, en fait, on a un déficit d'investissement de 420 000 euros, si je ne me trompe.
Oui, tout à fait. Hein,
quand vous retirez ces fameux 1 080 000.
Donc on va aller maintenant sur l'évolution des recettes réelles d'investissement.
Donc c'est un... C'est celui-là.
C'est celui-ci. Donc 1 800 000 et subvention 249 000. Et nous n'avons pas eu de dotation.
Bon, là aussi, hein, vous voyez les 1 091 000 dont on parlait dans la grande envolée grise. Voilà, mais voilà, c'est 1 091 000, hein. C'est pas du réel, c'est du virtuel, ça.
C'est du comptable.
Et il faut donc, en fait, quand on les décompte, on vient de 1 826 000 à 735 000 euros. Voilà, 735 kilos euros. Soit... C'est dommage, mais j'aurais bien aimé avoir les deux. Allez-y.
Il faudrait peut-être dire que. La commune n'est qu'une boîte à lettres, hein,
dans oui,
ce c'est ça. Hein, et que lors du transfert de la communauté de communes de Basse-Automne, nous n'avions pas eu ce problème. Ce ne sont pas les communes qui auraient été impactées au niveau de la comptabilité. Hein, alors que là, l'État a obligé à ce que ce soit que la comptabilité du CIBOR passe sur la commune et ensuite que cette comptabilité repasse.
C'est d'ailleurs un peu gênant, je trouve. C'est problématique hein, pour les comptes.
Oui, bah oui,
même si ça n'apparaît pas sur le fond, ça ne change rien. Effectivement, quand on a expliqué des comptes à nos concitoyens, bah, c'est difficile à expliquer ça.
C'est très difficile à expliquer, voilà. Comme c'est du virtuel.
Voilà. Faut connaître de façon très précise la comptabilité... la comptabilité des communes pour pouvoir expliquer ça. Hein, parce que je dois admettre que heureusement que Mme Javelot était là pour nous l'expliquer, parce que franchement, on n'aurait pas saisi.
On a fait beaucoup de réunions.
On a passé un petit moment là-dessus.
On pourrait comprendre quelque chose. Hein, ça a quand même mis six mois avant de terminer.
Alors, là, effectivement, on nous a imposé de servir de boîte aux lettres. Ce qui a été fait d'ailleurs pour tout l'actif, parce que quelque part, au niveau comptable, tout ce qui est réseau, etc., tout ce que la station d'épuration, tout ça, c'est de l'actif. Donc, il a aussi fallu le passer. Et on a dû faire la même procédure.
Oui,
du CIVOM vers la mairie, de la mairie, enfin de la commune, pardon, pas de la mairie, de la commune vers l'agglomération. Et ce qui est curieux, c'est que ce qui nous a été imposé par la préfecture pour la compétence assainissement, comme par hasard, là, on vient de transférer la compétence eau, au 1er janvier 2019, et là, ils ont trouvé une solution, et on a tout transféré directement à l'agglomération. Donc, vous ne reverrez pas ce genre de d'usine à gaz pour arriver à transférer des biens. Voilà. Et des comptes de résultats.
D'ailleurs, je tiens d'ailleurs, puisqu'on en parle, à remercier vivement Mme Javelot pour le travail qu'elle a effectué, parce que c'est quand même quelque chose de... Elle a passé quelques heures là-dessus.
Pas que là-dessus, d'ailleurs, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, au niveau comptabilité, le trésor public, pas toujours de sa faute, d'ailleurs, hein, parce que la dame qui est à Pont-Sainte-Maxence, elle est remarquable, hein, mais les effectifs ont tellement diminué qu'ils sont complètement... il faut aller rechercher, entre parenthèses, en langage simplifié, il faut aller rechercher nos petits dans ce qui nous renvoie. On ne sait même pas ce qui nous renvoie. Enfin, il faut tout redécouper. Et c'est Mme Javelot qui se livre à tout ce travail. Et ce n'est pas une mince affaire. Voilà.
Bien. On va passer au ratio. Donc là, on va voir plus clair. Là. On va passer au ratio significatif et à la dette. En fait, on a édulcoré les chiffres de cette opération... de CIVOM, voilà, virtuel de CIVOM. Et donc, on a là une représentativité des résultats, en fait. Hein. Donc on se retrouve cette année avec un montant d'épargne brute de 828 000 euros. Donc, c'est le montant de notre épargne définie, auquel donc on retire, puisque dans ce montant-là, dans la dette que nous avons en compte de fonctionnement, on ne retire que les intérêts de la dette. Il faut, pour avoir les annuités, bien sûr, retirer le capital de la dette pour avoir une vue réelle de notre épargne nette, donc, qui représente 274 000 euros. Donc, ce qui nous ramène un épargne nette de 554 000 euros. Voilà, qui est, à mon avis, un très bon résultat.
Alors, ce très bon résultat, évidemment, est le résultat de l'action de tous, de toute l'équipe municipale, personnel municipal et élu, tous les personnels et services techniques, enfin tous, voilà, la crèche, tout le monde.
On va maintenant parler de la dette. Donc, la dette dont le capital restant dû au 1er janvier 2019 s'élève à 3 050 807,45 euros et composée des mêmes emprunts qu'en 2018. Il n'a pas été mis en place de nouveaux emprunts. Donc, il y a 6 prêts à taux fixe compris entre 3,88 et 5,51, 2 prêts sans intérêt souscrits auprès de la caisse d'allocation familiale, 4 prêts à taux variable, dont un indexé sur le livret A plus 1%, un prêt indexé sur le Euribor à 12 mois, et 2 prêts structurés sensibles aux fluctuations des marchés financiers, donc qu'on surveille chaque année, mais qui jusque-là ne posent pas de problème, et qui se terminent en 2022, si mes souvenirs sont bons, oui, c'est ça, qui sont, donc vous avez les références. Malgré les taux élevés, ces prêts ne sont pas négociables compte tenu des pénalités prévues dans les contrats. Donc, effectivement, on pourrait en sortir, mais ça nous coûterait beaucoup plus cher. À noter également le remboursement du financement de la mairie qui ne figure pas dans la dette, mais bon, qui pèse sur la section de fonctionnement à hauteur de 100 000 euros par an, à peu près. Alors, vous avez l'état de la dette qui ressort, donc, avec, comme je viens de le préciser, donc, il y avait un montant initial d'emprunt de 5 096 560,40 en capital restant dû 3 050 807,45, avec des annuités globales de 385 531,68. On va reprendre le camembert après. Donc, comme je l'ai dit, le capital restant dû, annuité de l'exercice, emprunt souscrit par la HLM pour la mairie restant dû 1 066 652,03. Donc on a eu une réduction de l'encours de la dette sur cette année d'un montant de 265 209,59 euros.
Correspond à des emprunts
ici?
Non.
Non, non, elle a tombé du capital.
D'accord.
Alors, pour information, il y a des ratios, enfin, ça, c'est quand même assez intéressant de les connaître. Une commune commence à être un peu fortement endettée quand elle est à un ratio d'endettement du montant de la dette sur la CAF brute qui est entre 7 et 10 ans. Il faut quand même faire attention à partir de ce moment-là. Quand on fait le calcul, j'ai fait le ratio, 3 051 000 sur 828, on ressort à 3,68 ans. Donc, ce qui est quand même très, très faible. Et lorsqu'on intègre le montant des 1 million de la mairie, en fait, on ressort à 4,97. Ça, c'est pour votre information.
Alors, quand on parle de ratio d'endettement, qu'est-ce que ça veut dire derrière ? Vous avez vu tout à l'heure, on avait l'épargne brute, et c'est dans le cas où on consacre, on ne fait plus rien, on consacre la totalité de notre épargne brute au remboursement de la dette. Il nous faut donc, en fonction qu'on compte la mairie ou pas, 3,68 ans ou 4,97 années pour rembourser toute la dette. Mais bien sûr, on ne fait plus rien à côté. C'est un calcul, ça donne un indicateur, évidemment, ce n'est pas un fonctionnement réaliste.
La fiscalité, donc les taux communaux en 2018 sont restés identiques à ceux votés par le conseil municipal en 2017, soit 13,50 pour la taxe d'habitation, 19,88 pour le foncier bâti, et la taxe foncière non bâtie, 41,82. Alors là-dessus, j'ai aussi un petit info à vous donner. En fait, j'ai repris les chiffres parce qu'on a changé de, en passant à l'ARC, on a changé de système de fiscalité. On est passé d'une fiscalité additionnelle à une fiscalité professionnelle unique. Ce qui fait que certes, les taux communaux ont été modifiés en 2016. En 2017. En 2016, pour la taxe foncière, on a deux exemples. Pour la taxe foncière, en 2016, nous avions 16,90% au taux communal et 2,28% au taux intercommunal, ce qui faisait un taux global de 19,88. Depuis que nous sommes en taxe professionnelle unique, l'ARC ne prend pas de taxe foncière. De taxe d'habitation. Donc, 19,88 plus 0, ça fait, on reste donc au 19,88.
C'était ce qu'on avait expliqué à ce moment-là. Je ne sais pas si vous en souvenez.
C'est un rappel.
On a fait jouer les... Je ne me rappelle jamais du mot, là. Les
vases
communicants. Et voilà. Mais la somme des deux est restée la même. C'est pour ça que, en fait, rien n'a augmenté depuis 2014 et rien n'a bougé depuis 2014 dans les faits.
Pour le foncier, c'est la même chose.
C'est
exactement le même processus. Vous pouvez reprendre vos feuilles d'impôt et regarder, en fait... Alors, le risque... Il y a quand même un risque potentiel globalement parce qu'on n'est plus tout à fait maître du taux de l'ARC. Aujourd'hui, moi, je peux vous en informer. L'ARC, cette année, a décidé, puisqu'on est, on a une commission finance, normalement, ce sera voté tel que l'a prévu la commission finance. Cette année, l'ARC ne doit pas augmenter ses taux. Mais ça ne veut pas dire que dans 2, 3 ou 4 ans, les taux n'augmenteraient pas. Ils seront indépendants des taux communaux. Donc là-dessus, on ne peut pas être maître de tout. Tout comme on ne l'était pas avant, d'ailleurs. Voilà, donc voilà pour tout ce qui est la partie finance. Je vais donc prendre la parole à
la maire. Bon, on continue sur la suite, à moins que sur cette partie-là, avant qu'on aille sur la suite, vous ayez des questions, des commentaires. Là, on arrive au bout de cette partie financière. Non ? Bien, allez, on continue. Les perspectives pour l'année 2019 et les grandes orientations de la commune. Donc on va commencer par les objectifs généraux, qui, je dois dire, sont... on est dans une continuité, il n'y a pas de révolution. Donc les orientations budgétaires s'articulent autour des principaux objectifs suivants. Ne pas augmenter les taux relatifs à la fiscalité locale afin de ne pas alourdir la charge des familles et des entreprises. Premier point. Deuxième point, maîtriser les dépenses de fonctionnement par la poursuite des efforts de gestion engagés depuis plusieurs années, malgré l'inflation normative et réglementaire. Ça aussi, c'était à prendre en compte dans le budget de fonctionnement dont j'ai parlé tout à l'heure. Limiter la hausse des charges de personnel aux évolutions réglementaires et de carrière et maintenir le nombre d'agents. Continuer les réflexions avec l'agglomération pour développer la mutualisation des services. Assurer la qualité des services existants rendus à la population. Dégager des marges de manœuvre pour l'investissement permettant la poursuite d'un développement équilibré et responsable de son territoire. Ne pas recourir à l'emprunt mais utiliser l'autofinancement dégagé. Poursuivre des travaux conduisant à une restauration du patrimoine communal des voies et des voiries. Maintenir le rythme des travaux de bâtiment du programme ADAP. Donc c'est l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Donc c'est pas toujours évident. Favoriser les investissements générateurs d'économies de fonctionnement. Ne serait-ce qu'au travers de changements de menuiserie. Il n'y a pas que ça. On va voir, on fera aussi changement de chaudière qui a plus de 30 ans. L'éclairage, mais on va parler de tout ça tout à l'heure en détail. Simplement, ce qu'il faut dire, c'est que cette page qui ressemble à une page de bonnes intentions, c'est pas une page de bonnes intentions, c'est ce qu'on a appliqué en termes de préoccupations constantes depuis le début. Donc, on va continuer à s'y tenir. L'évolution des sections de fonctionnement et d'investissement. Donc le budget, le projet de budget primitif prévisionnel pour l'année 2019 sera construit avec une volonté de maîtrise des dépenses réelles de fonctionnement. Les dépenses réelles prévisionnelles de fonctionnement avoisineront le montant des réalisations 2018, à l'exception d'augmentations liées aux contraintes statutaires et réglementaires qui sont imposées. Les dépenses prévisionnelles d'investissement reprendront en grande partie les opérations d'investissement déjà présentées au Conseil municipal et qui ont fait l'objet de demandes de subventions actuellement à l'étude auprès du Conseil départemental, de l'État, au travers de la demande de contrat de ruralité qui a été faite, de la DETR dont on a parlé tout à l'heure, et de la DSIL, dotation de soutien à l'investissement local, et aussi de la caisse d'allocation familiale. Bon, là, on n'est pas sur les mêmes ordres de grandeur, mais voilà. Les données seront calculées sur un certain nombre d'hypothèses de travail et sur les informations de recettes et de dépenses connues à ce jour. Elles sont susceptibles d'évolution jusqu'au vote du budget. Section de fonctionnement, les dépenses de fonctionnement. Donc d'abord, les charges à caractère général. Donc là, on est bien sur le fonctionnement. Entretien des bâtiments. Poursuite des actions conduisant à terme à réduire les dépenses de fonctionnement sur les bâtiments. Économie sur les fluides. Alors, remplacement d'ampoules basse consommation par des ampoules LED. Ça, c'est en cours. Pourquoi je vois écrit à côté de celle de la ferme ? C'est quelque chose qui est mal placé.
C'était des exemples.
Exemples d'ampoules LED, pardon. Oui, excusez-moi. Mais moi, je pensais ce qu'on fait sur l'éclairage public
c'est
aussi.
C'est juste après, tranche de l'extérieur.
Très bien. Donc, je continue. Groupement d'achat pour la fourniture d'électricité mené par le SE 60. Donc là, on continue à rester dans ce groupement d'achat. Tout comme celui qui est lié à la fourniture de gaz, qui nous a quand même permis de gagner de l'argent depuis qu'on est rentré dans ces groupements qui ont été mis en place par le syndicat d'électricité. Remplacement de robinets thermostatiques dans les écoles et appartements loués. Poursuite des actions visant à améliorer l'état des bâtiments et équipements communaux, à mettre aux normes les bâtiments et à accroître la sécurité. Donc le programme annuel de peinture dans les écoles qui continue. La réfection des portails des écoles maternelles et primaires qui, je dois dire, sont un peu vieillissants. Donc on va s'y attacher. La poursuite des travaux électriques suite aux vérifications périodiques obligatoires pour mise aux normes. Tableau électrique du local pétanque, éclairage de l'entrée de la crèche, etc. Poursuite de la réfection des murs d'enceinte du château. Remise en état de l'éclairage extérieur à l'espace d'Agobert. Il nous reste encore un tout petit peu à faire. Remise aux normes des détecteurs incendie de l'espace d'Agobert. Voilà pour cette partie. Action dans le domaine de la voirie et des réseaux. Alors, on a sur le domaine de la voirie des programmes de purge dans diverses rues. Rue Saint-Nicolas, rue Jean d'Ours, Hippolyte Paulin, impasse Jeanne d'Arc. On aura aussi, évidemment, comme tous les ans, des traçages routiers, parking poids lourd, rue du Général Sébert, rue de Saint-Ine, rue des Moulins et à bord du collège. Le remplacement de 37 lanternes de l'éclairage public des rues René Firmin et Juliette Adam. Nous avons aujourd'hui 3 lanternes test qui sont en place dans ces rues, dont une à côté de la mairie et les autres à côté des ateliers municipaux. Donc on peut déjà voir ce que ça va donner. Modification du feu tricolore au carrefour du collège. On était sur un feu récompense ancienne mode, on va dire. C'est-à-dire qu'il passait au rouge si la vitesse était excessive. Aujourd'hui, les feux, le fonctionnement est inverse, c'est-à-dire que le feu est au rouge, et si vous êtes au-dessus de la vitesse limite, il reste au rouge. Si vous êtes en dessous de la vitesse limite, il passe au vert. Voilà. Action dans le domaine des espaces verts. Donc on continue bien sûr à appliquer le zéro phyto. On met du paillage minéral de massif aux abords de la salle de sport pour commencer. La coupe d'une haie de conifères dans le quartier de la gare, qui est plus très belle, il faut bien le dire. Des travaux de régénération du terrain d'honneur au stade de football qu'on fait à peu près tous les 2 ans. Vrai choix, M. Leblanc confirme, donc c'est bon, je ne me suis pas planté. Un semis de gazon pour le merlon qui sera créé au stade de football, Alors en fait, il est créé. Par contre, on ne va pas faire tout à fait un semis de gazon, mais on va mettre en place une prairie fleurie sur le merle. Voilà, ça fera comme ça, un peu de couleur en bordure de rue.
C'est très bon pour la biodiversité.
Et c'est très bon pour la biodiversité. Plantation d'arbustes et de vivaces au château. Requalification du massif au rond-point devant Francem. Alors ça, c'est lié à une opération en investissement qui était déjà l'an dernier, qui est dans les restes à réaliser, et qu'on verra dans l'investissement, qui est l'aménagement de l'arrêt de bus. Curage de fossé rue de la Mabonnerie et chemin de Capi. Donc ça, c'est prévu. Et je passe à la restauration scolaire. Je vais souffler un peu et demander à madame, sur la restauration scolaire, à l'élu référent sur la restauration, de commenter.
Allez. Alors, l'appel d'offres ouvert a permis de mettre en place, à la rentrée de septembre 2018, une nouvelle convention cadre pour la prestation de services de confection de repas en liaison chaude. Le prestataire a été retenu pour 4 ans maximum, et c'est la société Happy. Prise en compte des nouveaux prix retenus pour la prévision des crédits au compte 611.
Alors, ce qu'on peut dire là-dessus, en ajoutant quelques mots, c'est que d'abord, on va continuer notre politique de lutte contre le gaspillage, notamment par des opérations de compostage qu'on va mettre en place. Alors, je ne sais pas trop si c'est du fonctionnement ou de l'investissement. Il y a quand même un peu d'investissement dans cette affaire-là, hein, monsieur Leblanc. En tout cas, on va continuer. Je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à la rédaction du cahier des charges pour l'appel d'offres de la restauration scolaire. On s'est adressé à la DPO, mais derrière ça, en interne, on a vraiment fait un très gros travail là-dessus pour avoir justement des repas de qualité pour nos élèves habitant la commune et allant aux écoles de la commune. Bon, à titre d'exemple, sachez qu'aujourd'hui, on a exigé que pour le problème du poisson, donc je parle sous ton contrôle, il y ait plus de 50% de poissons frais. On a aussi introduit comme critère le nombre de kilomètres faits par les approvisionnements, en particulier frais, avant d'arriver au centre de restauration scolaire. On est donc sur une politique de circuit court qui est imposée. Qu'est-ce que je peux encore prendre ? Dans le domaine des matières acceptées ou pas, effectivement, tout ce qui est margarine, tout ce qui est gras saturé, c'est des huiles, c'est ça ?
Oui.
Huile grasse saturée, tout ça est interdit. Bon, il y a d'autres exemples. Hein. Le cahier des charges, il doit faire au moins une dizaine ou une douzaine de pages au total. Donc, c'est un cahier des charges vraiment très exigeant. Et malgré ce cahier des charges, on est resté, là je parle sous le contrôle de Mme Jablot, mais on est resté sur les mêmes prix. Donc aujourd'hui, c'est quand même... il y a eu vraiment un travail, on y a passé des heures hein, sur le cahier des charges.
Tous les midis, les enfants ont à la fois un féculent et un légume.
Et ce midi, j'ai entendu parler d'un camembert fondu, apparemment, qui a fait fureur.
Oui. Alors ce midi, c'était un test et c'était une première fois, effectivement. Le chef gérant, Nicolas Niquez, a essayé, dans le cadre des repas bio, c'était un repas complètement bio de l'entrée jusqu'au dessert, un camembert frit. Donc, et les enfants ont adoré.
Je vais faire les épreuves.
Bien, donc ça me permet de continuer. Je vais continuer à me reposer un peu.
Alors,
je laisse la parole à monsieur l'adjoint aux affaires scolaires.
Donc, les écoles, donc maintien du crédit fourniture au niveau de 2016, donc soit 36,50 € par élève, hein, qui permet d'acheter tout ce qui est papier, feutre, etc. etc. Un crédit livre donc, qui sera étudié, comme tous les ans, suivant les changements de programme prévus par l'éducation nationale, donc l'état des manuels et le coût total par école. Il n'y a pas de classe de découverte en 2019 de prévu, mais on a pour projet d'une journée à Paris pour visiter le Sénat et le Jardin des Plantes pour les deux classes de CM2, puisqu'on a instauré tous les ans, c'est un peu le cadeau avant qu'ils partent vers le collège. Et c'est un peu large, puisque le devis qui nous est arrivé du SMIOS, on est à 1200 euros, à peine 1200 euros. Donc voilà. Maintien de l'activité piscine pour les classes de CP, CE1, CM2 des deux écoles. Mais il y a une sensible augmentation du crédit qui est à prévoir au niveau des budgets bus, puisque cette année, il y a des effectifs qui sont importants au niveau des classes de CP et qui nous obligent à prendre deux bus. On ne peut pas faire autrement par rapport au créneau. Moi, j'en profite pour remercier, décidément, c'est leur soirée, mais en tout cas, Carole plus spécifiquement, puisque c'est elle qui est en charge de ce dossier-là, mais elle s'est bien arraché les cheveux avec ses histoires de bus. Donc, merci beaucoup. Donc en fonction du nombre de séances et du nombre d'enfants plus importants, je vous l'ai dit, les entrées à la piscine de Compiègne sont gratuites depuis que la commune est membre de l'ARC. Voyage scolaire. On a fait le choix d'augmenter le crédit, enfin on vous proposera ça dans le budget, mais d'augmenter les crédits de 400 à 450 euros par classe, avec un report de crédit possible sur l'exercice suivant dans la limite maximum de 1000 euros par école. Il faut savoir que c'était une demande depuis quelques années, mais les transporteurs, enfin les bus, les sociétés de bus, à juste titre, ont augmenté leurs tarifs avec le prix du fuel, etc. Et ça devenait parfois un peu juste pour des sorties scolaires. Donc de 400 à 450 euros, c'est par classe, et donc c'est une augmentation qui est quand même à souligner, c'est important. Pour la crèche...
Alors attends, avant que tu termines sur les écoles... ce qui vient d'être lu là, d'abord, il me semble, mais là je me tourne vers Madame Javelot, que par rapport à l'an dernier, c'est un peu indiqué, mais on a effectivement un nombre de séances plus important à la piscine. Donc là aussi, vous voyez que les enfants bénéficient de plus de choses. Ils vont plus souvent à la piscine. Hein. Le deuxième point, c'est que, et ça va peut-être faire la liaison, non pas avec la crèche, mais avec la suite, c'est que aussi. C'est pas représentatif, ce qui vient d'être lu là, des efforts faits par la commune vers les enfants. Pour citer deux exemples, je crois que ce sera en 2019, on travaille avec l'entente oisenne, qui va venir sur place faire des sensibilisations aux enfants au travers de jeux sur tout ce qui est cru et tout ce qui est inondation. On a aussi cet après-midi, pour citer un exemple, et c'est la bibliothèque qui organise dans ce cadre-là, le BD-bus de la médiathèque départementale qui est venu, et donc il y a une classe qui a participé toute la journée à cette activité avec la médiathèque départementale. Donc en fait, les enfants ont des activités très diverses. Pour vous citer un exemple, je ne sais pas si je le fais ou pas, effectivement, je vais y revenir, et pour citer un autre exemple, sur le... donc ça s'appelle BD-bus d'aujourd'hui, où il y avait notamment un auteur de bande dessinée qui était là. Un enfant a dit ce matin, je m'en souviendrai toute ma vie. Un enfant de CM1. Alors, c'était plutôt le bon côté des choses, parce qu'on peut aussi se souvenir toute sa vie d'une mauvaise expérience. Mais c'était pas le cas, c'était bien dans ce sens-là. Et puis là, effectivement, l'adjoint aux finances me glisse aussi le fait que l'école de musique, depuis maintenant, ça va être la troisième année. Fait des stages, des périodes dans chaque école primaire. Et qui se conclut d'ailleurs par un spectacle à l'adresse des parents. Donc ça, c'est aussi grâce à l'Ecom Paul Vallée et grâce aux subventions qu'on lui accorde. Et ça faisait partie, quelque part, d'un engagement réciproque dans les subventions qui sont mises en place. Mais les élèves bénéficient de tout cet ensemble, sans parler du sport, avec l'éducateur sportif qui est depuis longtemps à disposition des écoles et payé par la commune. Voilà, je te laisse la crèche.
Alors, fourniture des repas et goûter à tous les enfants fréquentant la structure multi-accueil Les Petits Châtelains. Répercussions à la hausse sur le compte 6623. Achat de petits matériels, de jeux et d'articles de puériculture imputés sur le compte 6068 pour environ 1600 euros.
Alors, au-delà de cette explication un peu aride, en fait, on est encore sur la... Non, on passe à la bibliothèque. Avant, jusqu'au 1er janvier... Ça a commencé le 1er février, je crois, madame. Hein. C'est ça, le changement de repas à la crèche. C'était pas le 1er janvier, c'était le 1er février. 1er février. Jusqu'à présent, les enfants avaient des repas qui étaient des repas de maternelle. Bon, qui ne convenaient pas pour des petits... qui d'ailleurs doivent avoir des repas différents en plus entre les différentes catégories de petits. Enfin, tout ça n'est pas très simple quand même. Toujours est-il qu'on a fait l'effort. Aujourd'hui, les enfants ont des repas totalement adaptés à leur âge. Et d'ailleurs, dans ce domaine-là, on s'est doté de matériel qu'on verra tout à l'heure en investissement. Et dans ce domaine-là, qu'est-ce que je voulais dire ? Alors, c'était obligatoire de le faire, on nous mettait la pression. Mais néanmoins, là où c'est bien, c'est que la CAF, nous ayant mis la pression, elle nous accorde une augmentation de ses aides qui compense tout à fait l'augmentation des coûts pour nous. Pour les parents, c'est quand même beaucoup plus facile, puisqu'avant, il fallait qu'ils amènent le repas de l'enfant, etc., pour un certain nombre. Là, il n'y a plus de parents qui amènent des repas. Tout est fait là-bas et distribué là-bas par l'intermédiaire de ce contrat. Donc, en termes de service, c'est quand même une avancée qui est loin d'être négligeable. Voilà. Je pense que maintenant, on va passer à la bibliothèque. Et donc, comme tout à l'heure, je vais me mettre au repos et laisser la parole à l'adjointe en charge de l'animation et de la culture.
Alors, la bibliothèque maintient des crédits correspondant à la convention signée avec le conseil départemental, permet l'achat de livres ou autres supports, ainsi que le matériel permettant la projection et l'enregistrement des supports sur le compte 60-65.
Protection des supports.
Alors, le montant fixé est de 90 centimes d'euros multiplié par le nombre de 3 976 habitants, ce qui revient à une subvention, à une possibilité d'achat de 3 578,40 € de livres et autres matériels. En fait, d'une manière générale, on appelle ça des ouvrages parce qu'il y a des CD, il y a des DVD. Alors, cette somme est arrondie à 3 700 € pour l'achat des fournitures et d'entretien de livres. Les inscriptions et fréquentations ont été en progression en 2018, puisque nous avons 130 nouveaux lecteurs. 2070 livres ont été prêtés aux écoles, puisqu'il n'y a plus de bibliothèque dans les écoles. Ce sont maintenant les écoles qui viennent à la bibliothèque municipale et ont été prêtés donc aux écoles et à la crèche. En effet, les enfants de la crèche viennent également à la bibliothèque. Et l'hiver, quand les enfants ne peuvent pas se déplacer, c'est la bibliothécaire qui se déplace à la crèche avec une valise de livres. Et 6 958 ouvrages ont été prêtés pour tout public durant cette année. Concernant les animations, elles sont organisées pour certaines avec le soutien de la médiathèque départementale. Donc il y a eu une exposition et une soirée haïtienne. L'exposition, c'était suite aux travaux. Nous avions reçu en 2017, pendant une semaine, des artistes haïtiens. Et en 2018, donc, nous avons fait la restitution de ces travaux par une exposition et une soirée haïtienne. Nous avons eu deux soirées astrologie avec une association de Saint-Sauveur. Nous avons une soirée lecture à voix haute. Nous avons bien sûr des expositions, et notamment des expositions liées à la commémoration du centenaire 14-18. Nous avons eu le prix Ficelle, le prix BD pour les collégiens. Donc ça, c'est en particulier avec le soutien de la médiathèque départementale. Et concernant la formation aux collégiens, ils ont eu 6 heures de formation avec un membre de l'association BD Bulle. On a marché sur la bulle d'Amiens. Les enfants ont dû sélectionner un auteur parmi 6 qui leur étaient présentés. Et l'auteur, quand il a été choisi par tous les collèges et tous les enfants du département, nos enfants de Verberie se sont rendus à Beauvais au conseil départemental, et là ça a vraiment été une belle journée parce que pour beaucoup c'était prestigieux de rentrer au conseil départemental.
C'était une classe du collège.
C'était une classe de quatrième.
Voilà.
Alors pour les projets 2019, il y a eu le BD Bus aujourd'hui. Il y aura cet été l'été en roue libre avec la médiathèque départementale. Il y a 2 prix lecture qui sont engagés cette année, le prix Ficelle et le prix Les Étoiles de la Lecture pour les classes de CM1 de l'école primaire des Remparts, avec à nouveau remise des prix à Beauvais. Le prix Ficelle, par contre, c'est pour tous les enfants maternels et tous les enfants de primaire. Et c'est en partenariat avec certaines bibliothèques de notre territoire. Et tout ça, c'est sous la bibliothèque de Marny-les-Compiègne qui pilote l'affaire. Il y aura les arts en jeu, il y aura les contes d'automne. Concernant les fêtes et cérémonies, quelques données pour 2018. Donc, il y a eu le Festival des forêts avec plus de 600 spectateurs, dont 75 au trio. Le feu d'artifice, bien entendu. Les arts en jeu, environ 1 million de visiteurs sur le week-end. Pièces de théâtre au château, exposition Playmobil. Alors, il y avait eu énormément de visiteurs en 2017. Il y en avait eu 5 800. C'était exceptionnel. Mais l'année dernière, on en a eu tout de même 3 000. Nous avons l'aide logistique et technique aux associations sportives et culturelles. Ça, c'est un gros travail qui est mis en place par la municipalité. Nous travaillons également avec les associations telles que l'UCLAV, le colis et le repas de Noël, et puis les commémorations. Alors pour 2019, toujours le Festival des forêts, l'art en chemin, qui est une nouveauté avec une association dont le président est un écrivain, il s'appelle Alain Brun. On va travailler avec les enfants de la MJC. L'idée, c'est que des artistes, photographes, plasticiens, des peintres exposent dans le parc du château pendant 2 mois, tout l'été. Ce ne seront pas les originaux, hein, ce seront des reproductions. Et les enfants, par contre, de la MJC mettront leurs originaux. L'inauguration se fera le 16 juin, et je vous invite à retenir cette date. Nous avons également, au cours de l'art en chemin, les enfants d'AMJC, l'association Art et Culture et l'école Paul Vallée participeront, ainsi que l'association de M. Zach, Les Pigeons, qui s'appelle l'association L'Épervier. Il y aura une course cycliste au mois de mai, le 19, le feu d'artifice, bien sûr, l'exposition Playmobil, l'accueil de nos amis anglais pour les 25 ans de jumelage. Ça, c'est au mois de mai également. L'aide logistique et technique toujours aux associations. Le colis, le repas de Noël. Mais il y aura en plus cette année une nouveauté. Il sera possible pour les personnes de choisir éventuellement un chèque achat. Il y aura 3 solutions. Donc, le colis de Noël, ou le repas, ou un carnet de chèques du même montant pour se rendre chez les commerçants de la commune exclusivement. Les personnes auront cette demande a été vue en commission et puis a été retenue, discutée et maintenant proposée. Donc en mai, quand la demande sera faite, eh bien, il y aura 3 propositions pour les personnes pouvant bénéficier de cette prestation. Et puis, bien sûr, il y a toujours les commémorations. Alors, il y a une prévision de hausse de 2 000 euros, mais parce que nous aurons un peu plus de manifestations et surtout, nous avons plus de personnes bénéficiant soit du colis, soit du repas, soit du chèque cadeau. Comment ?
Population vieillissante.
La population est vieillissante, effectivement. Je ne me souviens plus du chiffre.
560, il est marqué, il me semble. 562 personnes.
562.
Ah, mais je ne l'ai pas. Ah oui, oui, 562 personnes, voilà. Mais nous avons un nombre, je ne me souviens plus du différentiel avec l'année dernière, mais c'est un nombre conséquent de personnes nouvelles arrivées dans cette.
On a reculé d'un an l'âge.
Déjà l'année dernière,
oui.
Enfin, ça fait la deuxième année.
On
avait bougé il y a 2 ans.
Non,
parce qu'on savait que de toute
façon. Voilà. Même moi, je voulais poser une question. Pourquoi qu'il n'y a qu'une classe de CMA, l'école primaire des remparts, qui participe au prix ficelle et au prix étoile? Pourquoi l'école du centre ne participe pas?
Ah non, le prix ficelle, c'est pour toutes les écoles primaires et maternelles.
Là, c'est marqué CMA de l'école primaire des remparts.
Le prix ficelle. Où ça?
Eh bien, deux, c'est prix lecture, prix ficelle et prix des étoiles de lecture pour les CM1 de l'école primaire.
Alors, le prix ficelle, c'est pour tout le monde. Alors, toutes les écoles primaires et maternelles, seul le prix les étoiles de la lecture, c'est pour les CM1, parce qu'il fallait qu'une classe soit proposée. C'est dans les conditions de ce prix.
Donc il n'y a que l'école des remparts qui participe à ça.
Voilà, c'est ça.
D'accord, okay.
C'est comme le BDBus. Le BDBus, c'est une seule classe, parce que la MDO nous dit que c'est une classe.
Non, je voulais savoir pourquoi il n'y avait que le CMA et l'école primaire.
Voilà. Le prix ficelle, c'est tout le monde, mais celui-là, il fallait une classe. Donc ça a été proposé aux enseignants, discuté avec les enseignants, et il nous a été dit, ben voilà, ce sera le CM1 de l'école.
C'est le choix des enseignants.
Oui, ce sont les écoles. Oui, on précise que ce sont les écoles qui proposent la classe. En aucun cas, c'est nous qui désignons.
C'est pas nous qui imposons la classe.
Ah, mais j'ai pas dit ça. Hein.
Non, mais c'est une précision.
Moi, j'ai pas dit non plus, tu l'avais dit. Mais j'explique le principe.
Non, précision. Il faut surtout pas extrapoler.
J'ai pas bien entendu, pardon.
Je dis tout simplement qu'au lieu de mettre des prix, il faudrait peut-être que tout le monde sache lire, parce qu'aujourd'hui, 20% rentrent quand même au collège sans savoir lire.
Alors justement, ça participe à l'apprentissage, parce que ça met une émulation chez les enfants. Ils sont obligés de voter, et donc pour voter, il faut qu'ils aient lu.
Oui, parce que quand on dit... Non, mais monsieur Floury, quand on dit que c'est... En fait, c'est le nom de l'action, si vous voulez. Le BDBus, typiquement, par exemple, j'y suis allé ce matin, j'ai passé une partie de la matinée avec eux. C'est le BDBus, mais il y a une vraie logique derrière. Les enfants ont d'abord fait un travail en amont avec l'enseignant. Ils ont lu des BD. Et puis après, ils en sélectionnent en fonction de critères avec le dessinateur qui est là, etc. Enfin... C'est le nom de l'action, mais ce n'est pas remettre un prix pour dire remettre un prix. Il y a un vrai travail pédagogique qui est fait par l'enseignant, notamment sur ce partenariat-là.
Alain Cron, aux enseignants, avant tout, c'est l'école qui doit enseigner aux enfants à des réalités correctement. Et la commune vient en plus, ce que la commune apporte en plus.
Voilà. Ce sont des mesures incitatives. Alors quand même, je mettrai un bémol sur ce que vous venez de dire, parce que alors quand on peut mesurer si nos enfants savent lire ou pas, le premier moment que je vois on peut mesurer ça, c'est le résultat du brevet des collèges, parce que avant il n'y a pas de, moi j'ai pas connaissance du moins de tests, etc., qui sont faits factuellement à Bergerie. Oui, il y a une évaluation. Attendez, madame, je répète ce que j'ai dit. Qui est des évaluations, j'en doute pas. Moi, je n'ai pas connaissance des résultats de ces évaluations. Ça reste interne à l'éducation nationale pour ce que j'en sais.
Et ça va même plus loin, je me permets de te couper, Michel, mais les évaluations du CP, les évaluations du CP qui ont eu lieu là, les enseignants eux-mêmes qui ont fait passer les évaluations n'ont pas eu les résultats des tests.
Mais tu peux avoir les résultats au niveau national.
Non, mais de toute façon, un jour, j'étais au conseil d'administration du collège et j'ai dit qu'il y a 20% qui ne savent pas lire en rentrant en 6e. Et une prof qui m'a répondu, « Oh, vous savez, quand on est sur 25, quand j'en ai 6 ou 7, c'est le maximum. » Je lui ai dit, « J'espère que vous n'êtes pas prof de maths parce que cela m'inquiéterait. » Donc tout le monde était bien d'accord sur les 20%. Ça ne s'est pas arrangé depuis.
Mais nous, de toute façon, au niveau de la commune, ça...
Oui, mais là, c'est l'éducation nationale.
Nous, on intervient justement...
Non, mais en commentaire...
Nous, on intervient pour aider justement...
Les résultats, comme le disait l'adjointe aux affaires sociales, on a des résultats annuels, nationaux, qui nous sont transmis, dont les 20% dont vous parlez. Après, comment ça se répartit, on n'en sait absolument rien. Je pense quand même qu'il y a des zones qui sont nettement au-dessus de 20% et qu'il y en a qui sont nettement en dessous.
On n'est pas dans les meilleurs.
Moi, je dis qu'au collège de Verberie, quand on voit les résultats du brevet des collèges, dans lequel je ne suis pas partie prenante, ce n'est pas moi qui suis responsable du résultat, Mais je vois quand même qu'on se place dans le haut des collèges de l'Académie d'Amiens. Après, j'en reste là. Mais je vois quand même qu'en termes de réussite, on est plutôt au-dessus des autres. Depuis quelques années, entre un certain nombre de personnes qui sont succédées.
Ah, mais c'est fini, ça. C'est fini.
Bon, revenons peut-être au sujet qui nous intéresse.
Alors, je vous propose de continuer. Donc, je vais reprendre juste la parole quelques instants.
Communication.
Donc, communication, parution de 4 bulletins municipaux, un de 12 pages et 3 de 8 pages. Crédit de 5 800 euros à prévoir pour ces parutions sur le compte 6 236. Informatique et nouvelles technologies. Bah, oui, ça, forcément, je vais le faire. Mise en place de logiciels en location pour la gestion du cimetière. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on était sur du papier. Avec un plan, alors on pourrait toujours le refaire, mais le plan qui existe actuellement est proche du papyrus de 6000 ans avant Jésus-Christ. Donc il est temps de faire quelque chose. Toujours est-il que là, effectivement, on passe là-dessus, sachant qu'il s'occupe de tout ce qui est numérisation, etc., de notre cimetière, pour qu'on puisse remplir la base de données. Le peuplement de la base de données de ce logiciel ne va pas être une mince affaire. Hein, c'est toujours un... Voilà, il faut remettre tout dedans. C'est pas des plus simples. Maintien d'un crédit relativement identique pour le compte 6156, maintenance informatique, vidéoprotection, géo-verbalisation, électronique, GVE, donc tout ça c'est la police municipale, hébergement VPM pour le site internet, donc c'est l'hébergement, l'hébergeur de la commune, délégué de protection des données personnelles, ça s'est rajouté. D'ailleurs, c'était déjà une action de mutualisation avec l'agglomération, puisqu'on a conduit une action globale pour avoir des réductions sur le coût des PO, mais on a voté ça il y a quelque temps. Sauvegarde externalisée, parapheur électronique, tableau de bord informatique, comment on l'appelle, TBI, mais
tableau blanc voilà. Interactif.
Informatif, classe mobile, assistance téléphonique pour logiciel professionnel, etc., en attendant la mise en place du service mutualisé qu'on a décidé d'intégrer tout à l'heure. Et il est évident que là, avec Madame Jablot, on en avait parlé, on a laissé un budget sensiblement identique, parce qu'on est sur une année de transition. Donc de toute façon, on a des contrats en cours, on a des choses qui vont être prises, l'agglomération va reprendre tous les contrats en cours, et on va avancer. Pour l'instant, on a laissé le même crédit. Sur les assurances, donc on avait vu d'ailleurs ce sujet il y a peu de temps, on a fait un appel d'offres qui a été l'idée d'ailleurs par Madame Jablot pour la totalité des contrats d'assurance. C'était déjà une procédure qui avait été appliquée au niveau, à l'époque, de la communauté de communes de la Basse-Automne et qu'on a reconduit. Toujours est-il que cette fois-ci, ça nous a permis effectivement de dégager un nouveau gain de 25 600 euros par année. Ce qui effectivement est une baisse qui est toujours, c'est loin d'être négligeable, hein. C'est très intéressant à prendre, sachant qu'on reste sur des garanties identiques, donc on n'a pas rogné sur nos garanties, hein. C'est surtout la partie, vous voyez toutes les assurances qui sont citées, mais c'est surtout sur la partie véhicules et auto-collaborateurs qu'on a enregistré une baisse très significative. Voilà pour cet aspect d'assurance. Réglementation nouvelle. Alors, crédit de 13 000 euros à prévoir sur le compte 617 pour la réalisation de diagnostics. Alors, il est probable que ce crédit soit revu à la baisse. On est en train de regarder. Ça, c'était un premier jet. Depuis, on a affiné. Le directeur des services techniques a affiné. Et on devrait quand même bien baisser cette affaire-là, en particulier pour la mesure de... Enfin, toutes les mesures qui sont pour la qualité de l'air dans les établissements publics fréquenté par les enfants de moins de 6 ans, puisque c'est maintenant une obligation réglementaire. Donc, voilà. Mais on avait des craintes. Un premier devis était autour de 11 500 euros, si je me souviens bien. Mais on devrait baisser considérablement ce point-là.
Comment ça se passe, ça ?
Je n'en sais rien. C'est la réponse que tu attendais ?
Ça passe par la machine,
non ?
Une machine qui vient capter l'air des pièces pendant 2 semaines, hors période scolaire, et ils disent exactement les polluants qui sont rencontrés dans les
classes. C'est pour des petits de moins de 6 ans.
Moins de 6 ans, donc.
C'est la réglementation, c'est comme ça. On protège les petits de moins de 6 ans.
J'ai
un organisme
Alors il y a des pour quand même j'en savais quand même un peu quelque chose. Il y a effectivement ce que vient de dire Monsieur Leblanc et il y a un certain nombre de mesures à prendre. Maintenant certains produits doivent être systématiquement enfermés, etc., etc. Donc voilà, il y a des mesures à prendre derrière. Et l'audit sert aussi, si je ne me trompe, le diagnostic, à dire, ben voilà, les produits qui sont à tel, maintenant, il faut les ranger là-bas. Enfin, toute...
pour la crèche, elle va être infernale.
On va voir. J'espère que non. Voilà. Donc, autre diagnostic qu'on fait, bon, vous savez qu'on parle beaucoup des ponts en ce moment. Sur la France, sur l'Europe, hein, depuis le problème qu'il y a eu en Italie notamment. Toujours est-il que le département, lui aussi, s'intéresse de près à ces ponts. D'ailleurs, il y en a un qui a été en partie interdit à la circulation à Crépy-en-Valois, des poids lourds. Sachant que derrière tout ça, il y a des explications. Hein, c'est un pont qui, normalement, doit être entretenu par la SNCF. Alors, je ne sais plus à quel titre. Convention, etc. Et il s'avère que la SNCF a été un peu défaillante sur ce sujet-là. Nous, toujours est-il, pour revenir à notre niveau, nous, au niveau communal, les seuls ponts qui sont de notre responsabilité sur Verberie sont les 3 ou 4, les 3 ponts qui sont sur la rue des Moulins. Les 3 petits ponts qui sont là. Donc on va quand même faire un diagnostic sur ces 3 ponts pour nous assurer qu'ils tiennent bien. Il y en a quand même un sur lequel passent tous les véhicules qui vont alimenter les silos. Donc là, c'est quand même pas... c'est quand même des... Voilà, il y a des 40 tonnes qui passent là-dessus. Il faut quand même faire attention. Bon, je crois que c'est de l'ordre de 1500 euros pour ce diagnostic. Et voilà, il faut qu'on regarde cette affaire-là quand même.
On va voir si le département fait la même chose sur celui qui est en face française.
Qui est en face
française.
Oui, oui.
Oui, mais ils ont lancé un audit. Ils ont lancé un audit aussi.
Ils ont lancé un audit. Bah, celui qui est au-dessus de l'Oise me préoccupe plus que celui de Française, d'ailleurs. Mais bon. Ouais. Il y a celui du chemin de fer aussi, mais ça, je suppose que c'est la SNCF. Mais
le pont qui est sur l'automne dans la piste cyclable, c'est communal, ça.
Ah non, t'es carrément.
Donc sur automne, c'est l'automne de la rue des Moulins.
Ah, c'est toujours
la. C'est la rue des Moulins.
Plus loin vers la piste cyclable, il n'y en a pas.
Non.
Ah non, c'est. Oui, je vois ce que tu veux dire.
Non, mais si c'est la piste cyclable, ça devrait quand même bien se passer. Je sais qu'il y a des variations de masse chez les individus, mais bon.
Là, ça devrait aller.
Alors, on avance. Sécurité et mesures de police. Donc aujourd'hui, on prévoit un crédit de 2500 euros pour le service fourrière, enlèvement de véhicules. Donc on est toujours en fonctionnement. Hein. Je rappelle que nous avons donc signé notamment une convention avec Picardie Habitat pour où on paie moitié-moitié, sachant que la réglementation, normalement pure et dure, c'est que nous payons tout. Mais en discutant, effectivement, on fait 50-50. Et donc, sur ces. Voilà, on a commencé à faire des évacuations de véhicules qui se trouvent sur le domaine des résidences sociales de Picardie Habitat. Tout simplement parce que dans ces véhicules, il y a des sources de trafic en tout genre, mécanique sauvage, des trucs pour loger. Tout est des camions ateliers. Il y a de tout. Sans parler d'autres des trafics d'autres natures. Donc, en plus, il y en a qui sont vraiment plus roulés. Donc, on se retrouve avec des véhicules qui présentent des angles aigus, etc., qui sont des dangers pour les enfants, notamment.
Enfin, normalement, sur le propriétaire, on pourrait être payé.
Alors,
on
vous avez.
Retourne sur le propriétaire. Les voitures sont vendues, ou à la casse, ou à la fourrière, ou à la destruction.
C'est bien la procédure qui est appliquée. Alors, les difficultés qu'on rencontre dans ce genre de choses, c'est qu'aujourd'hui, les transferts de cartes grises sont de moins en moins suivis. Vous vous retrouvez avec des véhicules où... nous, c'est simple, hein, de toute façon, le gars, il n'a pas fait le transfert de la carte grise, tant pis pour lui, c'est lui qui va payer. Ceci dit, quand vous êtes sur des véhicules qui ont changé 4 fois de propriétaire, sur lesquels la carte grise n'a pas été mise à jour, vous commencez quand même à avoir de sérieux problèmes. Pour contacter un mec qui est, je sais pas où, moi, du côté de Marseille, et qui, de toute façon, donne plus signe de vie, personne ne sait où il est.
Les voitures sont vendues et récupérées. Ouais.
Quand on identifie le propriétaire, c'est lui qui paie. Voilà. Là, d'ailleurs, avant d'évacuer les véhicules, il y a une autre mesure, c'est que la police municipale envoie un courrier en mise en demeure, et on voit quand même, là, on avait envoyé un courrier pour 8 véhicules, pour l'instant, ils en ont évacué 2, les autres ont disparu. Donc, derrière ça, il y a une vraie mesure efficace qui vise à réduire notamment tous les trafics qu'il peut y avoir sur ces affaires-là.
Et puis les véhicules tampons qui prennent de la place.
Et puis, oui, les véhicules qui font tampons, et après on se retrouve avec des gens qui disent « mais on n'a plus de place pour stationner ». Enfin, forcément, s'il y a des véhicules comme ça, c'est pas simple. Voilà. Charge de personnel, s'il n'y a pas d'autres questions là-dessus. Pas d'augmentation du point d'indice pour les traitements des agents des collectivités territoriales en 2019. La variation à la hausse de ce chapitre sera le résultat des évolutions suivantes. Prise en compte des avancements d'échelon de l'année, répercussion des avancements de grade de l'année, reprise après une année de gel de la mise en œuvre du protocole parcours professionnel, création, carrière et rémunération, concernant 27 agents. Alors, titularisation courant 2019. Alors j'ai lu courant 2019, je me demandais si c'était pas courant 2018 pour les avoir titularisés. Alors les a stagiarisés en 2018. Donc titularisés en 2019, effectivement, impactant le tableau d'effectifs sur lequel ne subsistera plus qu'un seul emploi contractuel. Contrat aidé à l'école maternelle, sachant le vent le 2 octobre 2019. Maintien à l'identique de 2018 pour les taux de cotisation patronale, vieillesse, Fonds national d'aide au logement et centre de gestion et la formation, le CNFPT, au compte 6336. Voilà, vous avez derrière le tableau d'effectifs, donc je vous remercie de ne pas m'imposer de le lire. Ce qu'on peut commenter quand même, c'est qu'on a aujourd'hui 41 postes autorisés, on a 39 de pourvus. Voilà. Les agents non titulaires, ben vous voyez l'évolution que vient de rappeler le texte. Hein. Derrière ça, il faut dire aussi que nous, de par notre organisation, on a quand même tous les personnels, ou une partie des personnels, qui s'occupent notamment de tout ce qui est périscolaire, qui ne sont pas rattachés à la commune, mais sont rattachés à la Maison des Jeunes et de la Culture. Donc c'est pour ça, lire des tableaux comme ça, c'est toujours un peu compliqué, parce que si on veut comparer une autre ville, ben l'autre ville n'a pas le même périmètre. Peut-être qu'elle a du personnel communal pour son périscolaire. Donc, avant d'en tirer des conclusions hâtives, il faut toujours... toujours est-il qu'aujourd'hui, nous, sur les personnels que l'on a, je ne vois pas comment on pourrait réduire l'effectif de nos personnels. On est au plus juste, pour moi, partout. Soit parce que la réglementation nous impose un des quotas par personnel. Je pense au périscolaire, bien que ce ne soit pas nous, mais je pense également à d'autres problèmes, à la crèche, par exemple, où, effectivement, le nombre de personnes présentes, il y a des, et ce n'est pas normal, d'ailleurs, hein, il y a des nombres d'enfants, des taux d'encadrement qui sont fixés, et puis, pour prendre les services techniques, alors là, s'il fallait enlever quelqu'un au service technique, je ne sais pas comment on fait. Hein. Voilà. Après, il y a peut-être d'autres personnes qui sont plus malins, qui sont plus sioux. Bon, mais bon, peut-être qu'un jour, on aura des robots partout. Je ne suis pas sûr non plus que ce soit un grand progrès. Mais voilà, aujourd'hui, nos employés communaux, on est attentifs à leur recrutement et ils perdent pas de temps. Ils n'arrêtent pas d'agir dans la commune. Voilà. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans les facteurs, on pourrait avoir beaucoup de dégradations, par exemple, qui font que nos agents communaux seraient employés pendant pas mal de temps à réparer des dégradations. Aujourd'hui, avec la mise en place des caméras, etc., ce qu'on peut dire, c'est que l'argent qu'on consacre aux dégradations a considérablement chuté. Donc le temps passé par les employés municipaux sur des choses qui pourraient être évitées, il n'y en a quasiment plus aujourd'hui. Donc voilà ce qu'on peut en tirer. Autre charge de gestion courante. Alors, indemnité des élus. Donc, augmentation du point d'indice. Alors, je vous rassure. Ah oui, ben, c'est indiqué après. Servant à calculer le montant de chaque indemnité de 0,48% au 1er janvier 2019. Néanmoins, diminution du crédit global à prévoir par rapport à 2018, suite aux modifications mises en place courant 2018, un adjoint de moins et deux conseillères déléguées de plus. Donc là, moi, je rappelle qu'on est très, très, très en dessous de ce que nous on serait autorisé à faire en termes d'indemnité aux élus. Créance admise en non-valeur, compte 65-41, donc je parle un peu la gouverne de l'adjoint aux finances. Un crédit sera de nouveau prévu d'un montant non pas de 15 000 euros, mais de l'ordre de 4 000 euros.
C'est 4 000 euros, ouais.
Peut-être même moins. Tu peux moins.
Oui.
Ça sera certainement
moins de 4 000 euros.
En fait, je vais expliquer. Comment? Jusqu'à présent, tous les ans, on avait des restes à recouvrer qui étaient très très importants. Au début, on était à presque 110 000 euros. Et on a passé chaque année, on a revu avec la trésorerie ce qu'il y avait à passer. Tous les ans, on a passé 15 000. Et en fait, là, on arrive en termes de tout ce qui peut être passé en non-valeur, puisque on a passé jusqu'à 2013. Donc 2013, on est encore à 4 000 euros. Et après 2014, 2015, 2016, on peut encore intervenir et ou remettre à l'huissier ou faire des demandes auprès des banques sur tous les autres. Donc là, on peut intervenir sur cela. Et là, maintenant, on est globalement, on est à 60 000 euros à peu près de reste à recouvrer. Mais dans les 60 000 euros, il faut tenir compte, par exemple, que lorsque les factures cantines arrivent, souvent, il y a pendant un mois, enfin déjà, ça arrive avec un mois de retard par rapport à la trésorerie. Souvent, on a deux mois de décalage de factures cantines. Donc, quand tout ça s'est payé, en fait, il reste très peu de choses. On a très peu maintenant de. Impayé. On a encore quelques impayés, mais ça s'est beaucoup amélioré.
Alors, les impayés qu'on peut avoir, par exemple, toujours aujourd'hui, c'est comment on appelle ça ? Un acte de surendettement, là, comment on appelle ça ? Une famille qui passe en surendettement.
Ça, oui. Dossier
de surendettement. La justice tombe et bon, c'est terminé.
Oui, oui.
Ce qu'on peut ajouter là-dessus, donc plusieurs choses. Déjà, y a un travail très important de l'adjoint aux finances sur cette affaire-là, pour justement ne pas voir une inflation des impayés et que les relances soient faites effectivement avant les 4 ans. Parce qu'après 4 ans, vous ne pouvez plus recouvrer. S'il n'y a pas eu de relance de fait, quelqu'un peut avoir une dette en 2010. S'il n'y a pas eu de relance avant 2014, c'est terminé. Si vous avez fait une relance en 2013, ça recourt jusqu'en 2017. Hein ? Donc on est bien rentré dans ce processus-là. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, sur quoi ça joue tout ça ? Ben, si on a... on n'a pas fait ces admissions en non-valeur, de toute façon, c'est de l'argent qu'on ne peut pas récupérer. Voilà. Donc, derrière, on en arrive à des budgets qui sont insincères. Donc, aujourd'hui, sur ce truc-là, on est sur la sincérité du budget et quasiment totale, puisqu'il reste 60 à 70 000 euros.
Ouais,
bon, mais ce qui est logique,
avec
c'est pas forcément
des délais, donc quand vous auriez une facture, des fois les gens mettent un mois à payer. Pas dramatique, mais voilà, on est sur des choses qui là sont très 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 bien suivies et avec un budget sincère, ce qui est une des exigences réglementaires.
Et ce qui a amélioré aussi le paiement de la cantine, c'est le logiciel paiement.
Alors, carte bleue.
Oui, ça a été mis en place en 2015, si je me souviens bien. Mmh. Et effectivement, on enregistre de plus en plus de personnes qui paient directement en carte bleue. Ce qui d'ailleurs nous simplifie un peu la tâche. Pas tant que ça, mais un peu.
Non, c'est pas gênant, au contraire.
Ah,
non,
ça, non. Voilà, pas, ça nous simplifie la tâche, ça prend moins d'heures.
C'est pour ça que quand il y a un excédent de 540 000 euros, en fait, il y a un excédent de 480 000. Puisqu'il y a 60 000 euros qu'il faut...
Bah, c'est, non, c'est ça, ça, ça,
non. Non. Non.
Non, parce que ça joue sur la trésorerie, ça ne joue pas sur le compte de résultat.
Justement, ça joue sur la trésorerie. Le compte administratif doit être normalement en
corrélation avec
le compte de trésorerie. Et comme au compte de trésorerie, il y a 60 000 euros qui ne sont pas rentrés, le compte administratif de 540 000 n'est en fait que 480 000. Même si le compte administratif, c'est la référence, mais en compte de trésorerie...
Ah oui, le compte de trésorerie, oui, oui, bien sûr, il y a de la payer.
Mais dans les impayés, on est bien d'accord, et dans les 60 000 ou 70 000 dont on a parlé, il y a clairement deux catégories. Les gens qui sont qui n'ont pas payé dans la minute qui suit, mais qui vont payer, et puis ceux qui, malheureusement, sont décidés à ne pas payer. Donc il y a bien ces deux catégories-là.
Hein, enfin, de 60, quand on avait repris la situation en 2014, ouais, c'était combien ? C'était 130. Hein. Donc c'était encore mieux.
On va être confronté cette année sans doute à un petit souci, parce qu'à la trésorerie, la personne qui gère ça est partie depuis 6 mois. Il n'y a plus personne pour la remplacer. Donc, il va falloir encore.
Alors j'ai téléphoné à la DGFiP sur ce sujet-là. Il paraît que le successeur de Madame Pinto va arriver en mai. Mais on suit l'affaire de près, parce que là aussi, donc voilà, on a téléphoné au niveau au-dessus, parce que Madame de Le Salle, encore une fois, est une dame absolument formidable. Il ne faudrait pas qu'un jour elle tombe en... comment on appelle ça ?
Burn-out.
En burn-out, parce que c'est tout à fait le genre.
Bah, elle n'était pas loin, il n'y a pas...
C'est tout à fait le genre. Okay. On continue ? Alors, contribution aux organismes de regroupement. Cotisation relativement identique pour le GIP. Bon, vous voyez quand même une augmentation, parce qu'en fait, le GIP bénéficie de moins en moins... Alors, GIP, pardon, groupement d'intervention pour... l'environnement, d'intervention et de protection pour l'environnement. Donc, vous le voyez régulièrement dans la commune. Ils font un travail d'ailleurs formidable, je pense, sur tout ce qui est espace vert, en termes de taille, en termes de... Et ils aident considérablement les services techniques. Ils sont présents une semaine, globalement. Et combien de semaines par an ?
C'est une semaine tous les deux mois.
Une semaine tous les deux mois, voilà. Ils sont là une semaine tous les deux mois. Et ils font un travail, enfin toute la rue René Firmin, tout ça c'est eux, mais ils ont fait des tailles bien ailleurs. Hein,
au cimetière.
Donc ça nous, au cimetière, donc ça nous aide vraiment.
Dans tous les quartiers.
Bon, on paie un petit peu plus qu'avant, mais quand vous divisez ce qu'on paie par le nombre d'heures qui est effectué, on est largement gagnant. Et en plus, c'est un organisme d'insertion par l'activité économique, donc les gens qui sont là travaillent et sont réinsérés. Alors, je n'aime pas employer ce terme-là parce qu'il a été employé dans d'autres cadres, mais sont réinsérés par le travail dans la société. Comme le fait d'ailleurs, sur un autre plan, l'association intermédiaire. Voilà. Bon, et le SMIOS, donc 1480 euros, bon, ils ont augmenté de 4 euros en 2018. Cotisation en augmentation pour les mutuelles et le CNAS, liée en grande partie au recrutement de nouveaux agents en 2018. Alors, c'est, je suppose, on n'a pas recruté plus d'agents qu'il y en avait avant. Mais c'est des nouveaux agents et on passe effectivement par le CNAS pour ça. Donc, ça nous coûte un petit peu plus cher. Voilà. Baisse de cotisation à la FRNJC, 53 820 pour 63 552,78 en 2018, qui tient compte de la perte du fonds JET, malheureusement, qui était de l'ordre de 7 120 euros, je crois. Bon, les 20 euros, je suis moyennement sûr. 7 120 euros et des remboursements à la commune par la FRMJC des périodes d'arrêt maladie et de formation du directeur de la MJC. Donc là aussi, on est vigilant sur tout ça. Subvention au CCAS, donc on prévoit un crédit identique à 2018, soit 7 000 euros, sachant que le compte du CCAS est bien supérieur à 7 000 euros et que donc on a une marge en fait d'utilisation dont on discutait d'ailleurs l'autre jour en réunion du CCAS derrière ça. Maintenant, les CCAS, c'est exactement comme tout à l'heure. Quand on voit ce qu'on donne à un CCAS, il faut voir aussi le périmètre qu'il couvre. Certaines communes y mettent des éléments qui, pour nous, sont dans fêtes et cérémonies. Je pense par exemple à repas des personnes âgées, etc. Ils le mettent dans le CCH. Donc après, c'est des choix. Hein. L'un n'est pas plus critiquable que l'autre. Mais quand on parle des bilans et des sommes, il faut bien faire attention au périmètre qu'elles couvrent. Parce qu'ils peuvent couvrir des périmètres extrêmement différents d'une commune. Subvention de fonctionnement aux associations, donc comme l'an dernier. L'étude des subventions donc, sera scindée en trois parties, en fonction des bénéficiaires, associations locales, collège d'Aramont, maison des jeunes et de la culture de Vergerie. On sera globalement sur un montant légèrement supérieur, mais sensiblement identique à l'an dernier. Hein, voilà. Imputation sur le compte 65-74 des montants reversés aux associations pour la poursuite de l'aide aux 15 euros accordée aux jeunes de moins de 18 ans, qui vient parfois pour les associations sportives en complément des 15 euros versés par le département. La commission des finances examinera les propositions d'attribution au vu du dossier de demande de subvention rempli par chaque association. Et c'est le lundi 1er avril ou la commission des finances, je ne sais plus. Mais c'est dans ces eaux-là, de toute façon. Voilà, c'est avant le conseil municipal, bien évidemment, qui traitera du budget. Charges financières. Donc, aucun emprunt nouveau n'a été contracté. Ben là, je vais peut-être... tu reprends la parole.
Oui, oui, oui.
Allez.
Parce que terminé. Aucun emprunt nouveau n'a été contracté en 2018. Le montant des annuités d'emprunt intérêt capital est quasiment identique. 385 531,68 en 2019 pour 384 871,16 en 2018. Le remboursement des intérêts de la dette en 2019, 108 696,85, sera donc inférieur à celui de 2018. Dépenses imprévues, maintien d'un crédit de 5 000 € sur le compte 022 dépenses imprévues. Donc pour information, ce compte n'a pas été utilisé en 2018. Ce compte peut être utilisé principalement en fin d'année afin d'alimenter un ou plusieurs comptes qui présenteraient un dépassement. Ce compte est mouvementé sans délibération du conseil municipal, mais sur certificat du maire adressé au percepteur. Le maire doit rendre compte au conseil municipal de son utilisation lors de la séance de l'Assemblée qui suit l'établissement du certificat. Donc, recettes de fonctionnement. Redevance d'occupation du domaine communal. Donc, il est prévu des droits de place encaissés. Donc, en 2018, de mai à décembre, pour le marché. Pardon, ça, c'est ce qui a été encaissé. Pour le marché hebdomadaire de 1 772 €. Coût en personnel pour le suivi du marché en 2018, 4 690 €. Donc, il faut savoir que le marché, ça nous coûte quand même. Hein.
Ouais.
Donc, j'incite tous les gens de Vergerie, qui pourraient l'entendre, à aller au marché.
C'est un service à la population, quelque part, mais il faut qu'elle leur bénéficie.
Voilà. Fiscalité locale. Revalorisation de 2,2% des valeurs locatives cadastrales pour 2019. Aucune information ne sera communiquée aux communes avant la fin du mois de mars, quant au produit prévisionnel attendu. Le projet de budget est élaboré pour le moment avec des produits relativement constants par rapport à 2018.
Juste un mot, mais je ne sais plus sur quoi je voulais lire. Revalorisation de 2,2%, tout le monde l'aura compris, mais c'est une décision de l'État qui s'applique qui s'applique au niveau national. Ce n'est pas une décision qu'on aurait prise, nous, par je ne sais quel subterfuge.
C'est comme l'augmentation du point d'indice des indemnités des élus.
Ah, c'est comme l'augmentation du point d'indice d'indemnité des élus. Oui, c'était une décision nationale, tu as raison de le rappeler.
Oui.
Allocation compensatrice versée par l'ARP, donc le montant est fixé par délibération et arrêté à 1 096 284, donc ça c'est un montant fixe qui n'évoluera pas. Dotation de solidarité communautaire, donc ça c'est une dotation versée par l'ARC pour 2019, son montant sera de 37 876 €, donc c'est une dotation en baisse de 1351 par rapport à 2018, qui était de 39 227 €.
Alors, juste une explication sur ce sujet-là. Donc aujourd'hui, avant, de mémoire, c'était 8,80 € par habitant, multiplié par le nombre d'habitants, puis on avait la dotation compensatoire de solidarité communautaire. Aujourd'hui, la loi a obligé à changer les choses. Et cette dotation de solidarité communautaire est calculée sur un montant fixe de l'agglomération au travers d'un certain nombre de critères. Il y a le nombre d'habitants, Il y a aussi le revenu par ménage ou par habitant, je crois, de la commune, le potentiel fiscal, le nombre de logements sociaux sur la commune, selon une base de données sur laquelle on a eu d'innombrables discussions à l'ARC, parce que nous, on a été quand même un peu défavorisés dans cette affaire-là.
Et inversement de 5 000 euros pour les plus petites communes.
Ça, c'est du fixe. Donc, nous, on ne fait pas partie des plus petites communes, vous en serez douté. Donc, on ne bénéficie pas de ça. Et comme l'ARC met un montant global, ces critères-là sont calculés et c'est recalculé tous les ans. Donc, même si vous ne bougez pas, si la commune d'à côté fait varier ses critères, vous êtes impacté, en positif ou en négatif, par la variation de ces critères. C'est un jeu interdépendant entre toutes les communes. Voilà. Donc, c'est ce que la loi a posé. Bon, mais on l'a voté, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est passé en conseil municipal. Mais ça permet de comprendre comment ça se passe derrière.
Contribution et participation versée par l'ARC. Contribution annuelle versée aux communes par la distribution de documents. Donc, on verse, c'est 0,17 euros par foyer pour leurs documents. Montant de la contribution perçue pour 2018, 5 924,50 €. Remboursement des frais liés au salage et déneigement de la zone d'activité. Les services techniques de la commune assureront cette prestation de salage. L'ARC, sur la base d'une convention, qui n'est pas encore votée d'ailleurs, indemnisera la commune en fonction des charges réelles supportées.
Et l'arriéré sera pris en compte pour ce qu'on a fait là récemment, enfin, quand il y a eu un peu de neige.
Le fonds de péréquation des ressources intercommunales, donc c'est le FPIC, le versement par l'ARC à la commune pour 2019 sera pour ce FPIC de 30 912 €. Chiffre en baisse de 13 248 € par rapport à 2018, et ce sera la dernière année où on le touchera, puisque nous avons intégré l'ARC, puisque l'ARC paye le FPIC et ne le reçoit pas.
C'était dégressif, oui.
Donc on avait pendant 3 ans la possibilité de le percevoir, et c'est donc la dernière année où on le percevra.
Par contre, la situation aurait pu être encore plus désavantageuse, puisque l'ARC est quand même l'une des rares intercommunalités qui paie. Enfin, c'est pas l'une des rares qui paie, elle fait partie de celles qui paient, mais c'est l'agglomération qui paie et pas les communes. Donc là, on aurait pu avoir double peine. Hein. On aurait pu devoir supprimer ça et devoir payer en plus. Donc voilà, on ne paie pas en plus.
Taxe sur les pylônes électriques, l'imposition forfaitaire fixée par pylône est déterminée chaque année par un arrêté ministériel. Donc il y a une révision de la hausse de 2,54%, soit 75 208 € pour 2019. Taxe sur l'électricité, le montant perçu était en progression depuis 2015, 54 193,53 € ont été encaissés en 2018. Recettes en légère baisse et sensibles aux conditions météorologiques. Donc on est à moins 304 par rapport à 2018. Dotation de l'État, donc tout ce qui est les comptes 74-11, 74-121, 74-127, nous n'avons aucune information qui est mise en ligne pour le moment. Maintien de la participation à la bibliothèque de la part de la commune de Saint-Val-d'Aumont, donc de 817 € en 2018. Participation de la CAF pour la crèche, compte 74-78, recette à prévoir en hausse, on en parlait tout à l'heure, suite à la fourniture des repas et des goûters pour les enfants. Revenu des immeubles, relative stabilité des recettes issues des locations. Donc, location des locaux professionnels, la baisse engendrée au niveau de ces locations est compensée par le remboursement par l'école Open World des frais liés aux fluides, eau, gaz et électricité, puisqu'on loue à Open World les locaux de l'ancienne CCBA et qui prennent en charge une partie des flux, l'eau, le gaz et l'électricité. Fin de baux de deux locaux professionnels, 6 rue du Port et 40 avenue René Firmin. Location des salles.
Attends, oui. Là, je vais juste faire une petite intervention. Sur Open World, d'abord, Open World va nous quitter cet été. En fait, on le savait dès le début. Ils ont regardé à un moment donné la possibilité de, parce que ça les intéressait, de se relocaliser sur Verberie. Mais il se trouve que sur l'endroit envisagé, enfin, il n'y en a quand même pas des dizaines, hein, c'était extrêmement difficile voire impossible, parce que quand vous mettez en place une école qui se fixe comme objectif d'accueillir 250 ou 300 élèves, vous vous doutez que les réseaux d'assainissement doivent être dimensionnés pour ça, ainsi que d'ailleurs que les réseaux de défense incendie près d'un établissement scolaire. Mais là, c'est surtout l'assainissement qui était en cause, où il fallait déjà allonger nos réseaux d'assainissement de manière importante. Bon, ça, c'est l'arc. Mais en plus, il n'est pas du tout certain, et ben, je pense même qu'il ne l'est pas, que notre réseau sous vide ait la capacité d'accueillir ce supplément. Donc là, l'ARC est d'ailleurs en train de mener toute une étude pour savoir exactement quelle est la capacité du réseau sous vide de notre zone d'activité. Résultat, a priori, en juin. Voilà. En tout cas, c'était difficile. Et donc là, ils ont renégocié quelque chose. Bon, ça a arrangé Compiègne, quelque part, mais bon. Voilà. Donc, ils iraient sur la faisanderie, qui, où, jusqu'à présent, était logé ce qui s'appelle l'IME, Institut, pardon, médico-éducatif, c'est ça, qui lui va aller ailleurs, va se déplacer. Enfin, c'est voilà. Donc, ils se logeraient là-bas à terme, sachant que dans l'intermédiaire, ils vont également occuper d'autres espaces dans Compiègne, comme l'Institut de l'Inmer, qui lui s'est déplacé à Jean-Paul II, etc. Toujours est-il qu'ils vont nous quitter à l'été. Ensuite, on a effectivement deux baux pour deux locaux professionnels. On en a parlé un peu ici, mais tout le monde n'était peut-être pas présent. Il y a le local professionnel 6 rue du Port, qui était donc le local professionnel occupé par M. Hervé Rivolta, qui, du fait d'un accroissement de son entreprise, d'une croissance de son entreprise, c'est un peu petit, donc il va ailleurs. On est content pour lui. Aujourd'hui, on a eu 3 propositions, on est en train d'analyser tout ça et on devrait prendre notre décision très prochainement sur, justement, on a des propositions intéressantes sur les locations, l'allocation de cet emplacement.
C'est loué combien déjà ?
C'était loué 550 euros de mémoire, c'est ça, vous confirmez. Voilà. Le 40 rue René Firmin, c'est suite à la fusion de l'ASDAPA ou à l'intégration de l'ASDAPA dans à domicile 60. Et donc là, à domicile 60 ne souhaite plus utiliser ce local, mais continue à fonctionner plutôt sur un aspect centralisé, sur Compiègne ou Marly-Compiègne, je ne sais plus exactement où ils sont. Marny, il ne me dit plus. Bon, il y a un débat.
Ouais, bonnet.
Voilà, on arrête là, on ne fait pas le dégât. Ils sont localisés quelque part dans la ville, dans le centre de l'agglo. Donc ils vont nous laisser partir. Ils vont partir, donc nous, on va chercher à relouer ce bien-là rapidement. Voilà. Voilà pour ces informations que je tenais à donner.
Location de salle. Le montant de location de salle va être sensiblement équivalent à l'année précédente. Simplement, comme va y avoir des travaux dans la première partie, la première phase de travaux du château d'Aramon, les travaux ne démarreront qu'au mois de décembre 2019.
Fin 2019.
Donc l'impact ne sera pas énorme.
Sur la recette. Bon, par contre, en 2020, ça risque d'être différent. Ah, mais bon, à un moment donné... Faut faire les travaux.
Il y a un moment.
Après janvier, février, mars, il n'y a pas beaucoup de locations.
C'est tout faire pour qu'au mois de mai.
Exactement.
C'est les grosses périodes de l'année.
Voilà. Indemnisation, produit exceptionnel, donc indemnisation de 2 sinistres dans lesquels le mobilier urbain est endommagé. Donc c'est le mobilier urbain route de Pont et rue de la Pêcherie avec l'accident que le camion avait embarqué nos pots là. Quand même pour 11 800 euros. Et remboursement de 2 000 euros pour les frais d'avocat engagés dans le cadre de la procédure au tribunal administratif dans l'affaire Da Silva, commune de Verberie.
C'est un permis de construire. Alors, si c'est un permis de construire que j'ai refusé de signer.
Pourquoi remboursement ? Parce qu'on a fait jouer notre assurance.
Voilà. Oui. Ouais. Voilà. À un moment donné, il faut savoir. Voilà, il faut savoir jusqu'où on laisse aller les choses et dériver les choses. Et à un moment donné, on dit stop. Bon, je vais reprendre la parole là, voilà, sur la section investissement.
Reste à réaliser.
Voilà, les restes à réaliser.
Ça avait été évoqué en conseil municipal.
Ça avait été évoqué en conseil municipal, bien sûr, au moment où on avait entamé cette affaire. Diagnostic château. Donc là, bah, c'est la fin de ce qui a été fait par le diagnostiqueur, sur l'audit. Donc les 7 200 € qui étaient en reste à réaliser au 1er janvier 2019, bah, c'est maintenant terminé, cette affaire-là. En matière d'acquisition, on a fait l'acquisition de matériel divers, four et armoire frigorifique pour la crèche. C'était la conséquence de notre décision de changement de repas. C'est fait, terminé. Travaux divers de bâtiments, sirène mairie pour l'alerte à la population. C'est fait. Porte pour une sortie de classe CP pour se mettre en conformité avec la norme. Donc là, ça reste encore à faire puisqu'on veut faire un coup un peu global. Et le poste de police, on avait une petite partie, mais qui est réglée. Après, il y a une autre partie, c'est tout ce qui est travaux à l'intérieur. Mais ça, c'est autre chose. Travaux de bâtiment, menuiserie à l'école primaire du centre. Donc là, ça, ce n'est pas encore fait, mais ça va être fait en juillet. On a retenu l'entreprise. Donc voilà. Les travaux de voirie dans diverses rues. Donc l'élargissement de la rue des Remparts et l'accès au parking... Ça va être fait pendant les vacances d'avril. La création de l'arrêt de bus et Arc Express, ça va également être fait pendant les vacances d'avril. La consolidation des berges de l'Oise, c'est déjà fait. C'était une consolidation au niveau du camp où il y avait effectivement la berge qui commençait à partir. Et on a fait du... Comment on appelle ça, mince, ça de l'enrochement, qui est très bien fait d'ailleurs, à cet endroit-là. Voilà pour ce qui est les restes à réaliser.
Il y a les FCTVA
aussi. Et la FCTVA, bah tiens, c'est un sujet important, un sujet intéressant. 73 000 euros de FCTVA en recettes qui restent à arriver. La FCTVA, normalement, dans ce qui a été signé entre nous et l'État, l'engagement de l'État, c'est de nous rembourser la FCTVA à l'année N+1. Or, là, ça dérive depuis quelque temps. Et là, la FCTVA 2017, on nous l'a réglée en février 2019. Et donc, pas dans l'année, ça ne respecte pas les engagements. Et là, on pense que ça va continuer à dériver. Voilà.
Je te confirme.
Voilà. Donc,
il y a une personne qui est dans ce service, qui est en arrêt de maladie. On ne sait pas quand est-ce qu'elle reviendra.
Mais c'est... Voilà. Donc, pour les communes... Alors, c'est un autre point aussi que je tiens à indiquer. On est très vigilant sur notre trésorerie, parce qu'aujourd'hui, une commune qui n'a pas de trésorerie, comme l'État vous laisse les trucs, et même d'autres partenaires quand ils en ont envie, inutile de dire qu'il vaut mieux avoir une bonne trésorerie derrière pour assurer le paiement des entreprises, parce qu'on ne voudrait quand même pas que nos problèmes rejaillissent sur des entreprises, et en particulier les PME, et les mettent en difficulté du fait de notre absence de paiement. Donc ça, on est vigilant aussi quand on fait des travaux à ce que ce soit payé rapidement. Hein, et on s'y tient. C'est notamment Bernadette qui est en charge de ça et qui s'y tient et qui paie rapidement. Voilà. Donc ça, c'était section d'investissement reste à réaliser. Bon, vous avez le tableau là. Donc je vous laisse 2 minutes pour le regarder, voir si vous avez des questions. Des demandes de subventions en cours, mais qui sont toutes passées en conseil municipal. Hein. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, vous avez des demandes de subvention du conseil départemental, de la DETR, de la dotation du soutien à l'investissement local, du contrat de ruralité. Alors, dotation de soutien à l'investissement local et contrat de ruralité, c'est pour les travaux qu'on veut faire sur le château. Et puis vous avez un petit peu de caisse d'allocation familiale, vous voyez, l'acquisition du four et l'armoire frigorifique. De la crèche. Voilà. C'est bon pour ce tableau ? On peut continuer ?
Je veux simplement dire sur le contrat de ruralité, on a mis un chiffre qu'on espère avoir, parce qu'au contrat de ruralité, il n'y a rien de précis.
Il n'y a pas de règles.
Voilà. Il n'y a pas de règles. Donc, je pense qu'on ne sera pas loin de ce chiffre-là.
La DSIL non plus.
Et la DSIL, pareil. Donc, c'est l'État qui verse ça. Donc, il y a une enveloppe globale qui est à disposition. Et après, c'est en fonction des demandes qui arrivent.
L'intérêt du projet.
Voilà, l'intérêt du projet. Et puis,
et le montant global disponible. Or, vous avez pu voir dans les premières pages que le montant mis à disposition de la DECIL en 2019 est inférieur à celui qui avait été mis en 2018. Voilà, au niveau national. Après, le reste... projet nouveau. Donc, étude de faisabilité pour la bibliothèque. Bon, okay, c'est toujours un projet nouveau. Sachant que là, on regarde aussi ce qu'on pourrait faire au château, puisque de lors de l'audit, on a eu des propositions de transférer la médiathèque, bibliothèque au château, ce qui est un beau sujet, bon, qui reste à étudier un peu, mais qui est un beau sujet. Acquisition ordinateur pour les écoles primaires, c'était, oui, c'est envisagé, donc là, de doter encore un petit peu plus les écoles primaires sur les aspects numériques. Bon, mais comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai, il ne faut pas oublier que les savoirs de base, mais bon, aujourd'hui, on a aussi besoin que nos élèves soient formés sur tout ce qui est numérique. Parce que, à une autre époque, ne pas savoir lire, etc., c'était évidemment extrêmement problématique. Aujourd'hui, je rajouterais que, dans le contexte où on est, ne pas savoir lire, c'est toujours aussi dramatique. Ne pas savoir rédiger, et ça devient de plus en plus rare de trouver des gens qui savent rédiger, c'est aussi dramatique. Avoir des gens qui sont alors on dit comment pour l'informatique, enfin je ne sais plus. En tout cas, qui sont dans l'absolue non-maîtrise de tout ce qui est numérique, c'est également dramatique, tout comme ne pas avoir le permis de conduire. Donc on a en fait des exigences qui sont de plus en plus fortes et des savoirs de base qui sont de plus en plus... important pour trouver un emploi, notamment. Table et chaise pour l'école du centre, bon, ok. Tableau pour école primaire des remparts, bon, ça, ce sont des petits investissements. Jeu pour la cour de l'école maternelle, tu peux nous rappeler ce que c'est, Laurent ?
Oui, en fait, il y a un jeu, rappelez-vous, il y avait un bac à sable vert, là, c'était une espèce de grenouille qui avait été retiré, et puis on en avait déjà parlé l'année dernière, moi ça n'a pas été fait. Il y avait eu une table avec des bancs qui avaient été rachetés pour cet endroit-là, mais il manque quand même un jeu digne de ce nom dans la cour, donc voilà, on a remis un budget. Et des pneus que l'on va retirer. C'est vrai que oui, on y tient à retirer ces pneus-là et remplacer par d'autres pneus qui sont avec des matériaux beaucoup moins polluants que ces anciens pneus. Voilà.
C'est vrai qu'aujourd'hui, c'était pas terrible d'avoir des pneus de voiture à l'école primaire. Parce que, maternelle, pardon. Ensuite, donc, mobilier pour la bibliothèque. Bon, notre bibliothèque, on en a parlé tout à l'heure, elle fonctionne très bien, mais son mobilier est vraiment très vieillissant, donc on va au moins faire un petit peu pour l'améliorer. Lit spécial et table pour cuisine de la crèche. Donc là, c'est l'adaptation aux besoins de la crèche pour fonctionner. Chaise pour la grande salle du château. Donc on se pose la question du remplacement de toutes nos chaises au château, parce qu'elles sont quand même... vous les aviez achetées en quelle année, Monsieur Fleury ?
Les chaises, ça fait un moment.
Pour le mariage.
Bah oui, elle commence quand même à être, on voit, hein, commence quand même à être vieillissante. Hein.
Ça coûterait plus cher à faire réparer.
Et c'était quand est-ce qu'elle s'est mariée, ta fille ?
Laquelle, la mienne ?
La tienne, c'est...
Je suis d'accord, ça s'est passé l'année où elle s'est mariée.
Oui, et c'était en quelle année ?
En 2006.
En 2006, c'est ça.
Moi, c'est pas si vieux.
Ça fait 12 ans.
C'est comme c'est du tissu. Ah ouais.
C'est pas si sûr. Ça coûterait plus cher. Franchement, ça va coûter plus cher de les faire nettoyer que de les acheter.
Alors,
il y en a certaines qui ont été réparées et la réparation ne tient pas.
N'oubliez pas que ce sont des chaises qui passent de main en main. Ce n'est pas comme chez soi.
Hein. Mais c'est pas... De toute façon, c'est du tissu. Hein. Du tissu, ça se salit. Ah. Il y a des gens qui font attention.
Exactement. Elles ne sont pas toujours bien...
Non, mais il y a des sujets importants.
Sans parler du mariage qui a mis toutes les chaises dehors sous la pluie.
Allez, continuons.
On va ajouter quelques bancs dans le parc du château. Parce que, notamment près des dins, etc., il y a des gens qui aiment bien passer un moment là. on profite du fait que nous avons un employé communal qui est en fait aussi quelqu'un qui travaille la pierre, qui a d'ailleurs nettoyé le buste du général Sébert, là, qui s'est nettoyé de manière magnifique, et qui a fait le pied. Hein. Donc là, on va lui demander 4 cendriers en pierre. Donc il y en aurait 3 pour le château et 1 pour la mairie. Parce qu'à la mairie, il n'y a rien, et c'est bien de mettre un cendrier en pierre aussi. Donc voilà, ça participera à l'embellissement. Du mobilier pour le poste de police. Donc, je parle du nouveau poste de police, hein, je ne parle pas de celui qui existe actuellement, dont on espère pouvoir le terminer avant la fin 2019, sachant que le permis de construire est en ce moment dans les mains de notre ami, l'architecte des bâtiments de France. Voilà. Bon, puis je pense que ça va bien se passer, parce qu'on a pris toutes les précautions avec M. Leblanc pour que ça se passe bien. Donc, des tapis de sol pour l'espace d'Agobert, parce qu'ils sont vraiment très usagés. Donc on va remplacer les tapis de sol. Deux machines pour le nettoyage des sols, des salles de sport. Alors en fait, il y a une machine, une grosse machine, qui sera plus particulièrement dédiée à l'espace d'Agobert, sachant que quand l'espace d'Agobert est revenu dans nos comptes, la machine ne fonctionnait plus, et qu'elle ne fonctionnait plus quand l'ARC a récupéré la machine. Donc on a essayé de la faire payer à l'ARC, mais là, ils n'ont pas été d'accord. Donc, voilà. On a essayé, hein, mais bon, là, on m'a dit... ça marche pas à tous les coups. Et une deuxième machine qui est plus petite, c'est pour ça que c'est marqué des salles de sport, mais qui, elle, est particulièrement performante pour faire notamment tout ce qui est carrelage. Et sachant qu'on a quand même beaucoup de carrelage un peu spécifique, puisque le carrelage que vous avez... dans les écoles, etc., vous ne pouvez pas mettre du carrelage plat pour qu'il y ait des accroches, des aspérités. Donc ça, c'est bien pour la sécurité, mais pour le nettoyage, ce n'est pas terrible. Donc cette machine-là est en fait adaptée à ça. Elle irait même plus loin que dans les salles des écoles, des sports, décidément. Elle irait aussi dans les écoles, elle passerait dans les écoles, etc., pour justement traiter cet aspect spécifique. Un composteur pour la cantine. Alors voilà, il est marqué. Donc c'est l'effort, on continue contre le gaspillage. Et ce serait, alors on va aller voir avec l'agglomération, qui peut-être d'ailleurs va nous subventionner pour ça, on va aller voir à Crépy-en-Valois, c'est en fait un composteur qui permet de composter à la fois les matières végétales et les matières carnées, mais qui est placé en hauteur pour pas que les rats, etc. aillent dedans. Mais c'est un projet commun.
C'est un
composteur
rotatif.
Vas-y, dis-le.
Oui, c'est un composteur rotatif. Donc la matière qui est mise dans le composteur composte beaucoup plus rapidement, puisque tous les jours il y aura, c'est un peu le principe de la baratte à beurre. Donc tous les jours il y aura des tours de rotation qui seront effectués par les enfants. En même temps, c'est quelque chose qui est
ludique,
très pédagogique et très ludique, et ça permet de que le compost se fasse beaucoup plus rapidement et qu'il soit utilisable également beaucoup plus rapidement. Et ce composteur sera en hauteur, puisqu'il y aurait des produits carnés pour que les nuisibles ne viennent pas rentrer à l'intérieur.
Alors le projet, évidemment, c'est que ceux qui tournent, c'est les enfants de la cantine.
Oui, bien sûr.
Il faut qu'ils participent au projet.
Bien sûr.
Donc c'est eux qui vont tourner tous les jours à midi.
Et les personnels de cantine de cuisine également, parce que sans leur aide, ce n'est pas possible non plus.
Donc tout le monde est partie prenante dans ce projet-là. Et on serait les premiers sur l'agglomération à faire ça, donc on espère bien, puisque ça traite des déchets, donc d'une des compétences de l'agglo, on espère bien être aidé, voire même peut-être être totalement aidé. On verra. Pour l'instant, on l'a écrit là. L'Opel Movano des services techniques, donc, qui est loué depuis 2014. Et aujourd'hui, l'heure, c'est de savoir si on garde si on en prend un autre en location ou si on achète celui-là. Donc on est plutôt parti sur l'acquisition de celui que l'on a. Voilà, ce qui avait déjà été fait pour d'autres matériels. Hein. Parce que c'est vrai que nos matériels, quelque part, on y roule pas beaucoup. Donc voilà, l'intérêt, c'est plutôt de les acheter, parce qu'ils auront une durée de vie quand même plus importante. Je continue. Matériel pour les services techniques. Groupe électrogène, aspirateur à feuilles. Alors l'aspirateur à feuilles, il est, je crois qu'il agit là, mais...
Voilà,
25 ans. Donc là, il a montré de graves faiblesses. Donc on va en acheter un neuf. Poste à soudure, qui doit avoir aussi 25 ou 30 ans. souffleurs et débroussailleuses, donc là on est plutôt sur du petit matériel, entre guillemets. Voilà. Équipement en caveau pour le cimetière, donc on continue l'action entreprise par l'adjoint aux travaux, qui consiste à équiper des places libérées, on va dire ça comme ça. Oui.
Et en mauvais état.
Et, oui, en mauvais état, donc qui ont fait l'objet de toute la procédure, qui va bien évidemment, hein, de reprise. Donc là, la partie est libérée, mais on installe en fait de nous-mêmes des caveaux et on revend, on ne fait pas de bénéfice là-dessus, on revend à prix coûtant aux personnes et ça se passe bien d'ailleurs, hein, on en a revendu quand même pas mal déjà et on continue à travailler dans ce sens-là. Des bacs pour les plantations. Des bacs pour les plantations, donc 3 pour le bas de la rue de la Pêcherie et 1 pour la rue Saint-Pierre. Donc là, bah, il s'agit des bacs à remplacer notamment. La sonorisation de la rue de la République. Oui, je veux bien. Ça c'était la partie acquisition, les travaux sur les bâtiments, donc l'aménagement d'un poste de police, hein, c'est ce qui se situe place du marché, le remplacement des menuiseries extérieures et mise aux normes de l'école primaire des remparts. Là c'est quand même un gros dossier et on a la crainte en fait que l'architecte des bâtiments de France nous impose de faire tout ça en bourse. On va essayer de dialoguer. Bon, pas évident. Le château d'Aramon, mise en conformité générale, donc mise aux normes PMR, rénovation énergétique, travaux de restauration et de réhabilitation. Alors, première tranche, parce qu'il est bien évident que ça, pour le coup, c'est un programme pluriannuel pour arriver à faire tout ce qu'il y a à faire. Restauration des bancs de l'église, donc quatrième et dernière tranche pour la partie centrale. Ensuite, poste de store aux écoles et à la mairie, parce que nos stores, en fait, ils sont abîmés. Pour un certain nombre, on ne va pas tout remplacer. Et malheureusement, le constructeur n'existe plus. Voilà.
Puis aux écoles, il restait une classe, notamment celle du CIM1 de l'école des remparts, où on avait, rappelez-vous, avec les TBI, on avait mis dans la classe des CM2, on avait mis des stores occultants, et il reste celle des CM1. Donc...
Alors, complément pour le système de vidéoprotection. Donc là, typiquement, dans le poste de police, on va devoir y transférer tout ce qui est serveur de la vidéoprotection. Pardon.
Je vais continuer si tu veux.
Oui, vas-y un peu. Et on envisage donc de mettre 2 caméras sur la place du marché.
Alors, installation d'un éclairage dans la cour des ateliers municipaux. Là, c'est vrai que ça pose des problèmes de sécurité, surtout quand il doit y avoir des interventions la nuit, puisqu'aujourd'hui, la cour n'est pas éclairée. Donc, pour les gosses, c'est pas pratique. Remplacement de la porte du bureau de la crèche. Aujourd'hui, la porte, il n'y a pas d'anti-pince-doigts, c'est ça, hein, monsieur Leblanc, sur cette porte-là, je crois.
Elle est pas aux normes.
Elle n'est pas aux normes, voilà, c'est ça.
Pas aux normes PMR non plus.
La hauteur
et la planche de porte est trop basse.
Il faut la changer. Donc ça coûte très cher, mais on n'a pas le choix. Remplacement de la chaudière de l'école du centre. Clôture suite à l'achat de terrain SNCF. Rappelez-vous, on a acheté donc le terrain de la voie ferrée, donc il faut le clôturer pour éviter qu'il y ait des habitants qui viennent s'installer. Changement des canalisations de chauffage sous l'école maternelle. Tous les ans, ça date, hein, puisqu'il y avait eu une inondation à une époque, et puis avec la corrosion, les tuyaux pètent très régulièrement. Donc ça pose des problèmes. Création d'une ouverture dans le mur d'enceinte du château d'Aramon, rue Saint-Pierre, en face de la rue des Remparts. Donc là, c'est en face du passage surélevé.
Ah oui, d'accord.
Donc on pense élargir un petit peu et refaire le mur, parce qu'aujourd'hui, quand vous avez des poussettes qui sortent,
ou des vélos,
ils sont tout de suite sur la, Ils sont tout de suite sur la voie publique, donc ça pose des problèmes de sécurité.
Surtout qu'il y a beaucoup de camions qui passent par là.
Exactement. Juste un petit...
Attends, je pense que Madame Coulet, elle a des éléments à apporter, peut-être.
Non, non, pas du tout.
D'accord. Donc, vas-y.
Les canalisations de chauffage sur l'école maternelle, donc elles sont vraiment en état... voilà, elle remonte à très longtemps. Donc là aussi, ça fait partie de la voilà, remise en état. La chaudière changement, de l'école du centre.
Remise en état, changement.
Ah non, c'est du changement, oui. Ah, là, oui voilà, on change les tuyaux. Hein.
Oui.
Le remplacement de la chaudière de l'école du centre, donc c'est une très vieille chaudière. Et là, bah, ça fait partie des gains qu'on doit observer sur le budget de fonctionnement en termes de consommation, bien évidemment. Voilà.
Donc, création de l'ouverture de porte du château, on l'a dit. Travaux sur voie et réseau. Création d'un merlon de terre au stade de foot. Bon, bah, vous l'avez tous vu, ou peut-être pas encore, mais alors, c'est
oui.
Presque terminé. Ou c'est...
C'est terminé. C'est là où on doit planter la prairie.
Attends, parce que monsieur Fleury a peut-être des compléments.
La prairie Fleury.
Prairie Fleury.
Mais ça veut dire une petite montagne,
là, une c'est
ça.
C'est une butte de terre.
Alors, c'est déjà réalisé, mais en fait, au conseil municipal dernier, hein, on vous a demandé l'autorisation de tout ça, hein, parce que ça intervenait avant le vote du budget. On est d'accord.
Pose de la signalisation signalétique intérieure et mobilier urbain. Donc là, c'est pareil, hein, c'est une grande partie qui a été réalisée.
C'était fait.
Implantation d'un feu tricolore récompense rue de Paris.
Donc il est commandé et il doit être posé en mai. Donc selon la logique, il fonctionne selon la logique que j'ai expliquée tout à l'heure. Hein, sur, voilà, il serait à l'emplacement du radar pédagogique.
Trottoir rue de Paris, donc pour partie, parce qu'il ne s'agit pas de refaire les trottoirs, mais en tout cas, il y a des endroits où il y a vraiment nécessité, puisqu'il y a des trous dans les trottoirs, et une simple purge ne suffirait plus. Travaux de voirie, route de Saint-Sauveur et rue de la Mabonnerie. Remplacement de la canalisation d'eau pluviale de la rue de la Mabonnerie.
Alors là, juste sur toutes ces affaires de réseau. Donc là, c'est effectivement un gros dossier sur lequel on fait une opération conjointe avec l'agglomération. L'agglomération va remplacer ou mettre en place tout ce qui est assainissement, sachant que ça va aller du début de... du Saint-Sauveur, en fait, hein, du stop, jusqu'au château de la Mabonnerie, que là, ils vont mettre en place une grosse station de relevage qui va tout renvoyer sur le réseau de Saint-Sauveur. Donc on voit tout de suite que c'est des travaux d'une certaine ampleur qui vont se faire conjointement, justement, avec la canalisation d'eau pluviale, parce que c'est du réseau. Donc on va déléguer la maîtrise d'ouvrage à l'ARC, qui va assurer les deux en même temps, qui en plus va nous diminuer notre charge de travail. Donc là, c'est pas plus mal. Et bon, par contre, je pense que c'est des travaux qui vont durer au moins 2 mois. Mais il faut savoir que sur le réseau pluvial, la canalisation mise en place était de diamètre 200 mm, en partie bouchée par du béton, et que là, après analyse des experts de l'ARC, enfin, des gens qui font ça tous les jours, il faut qu'on mette en place une canalisation d'au moins 500 mm. 500 ou 600 mm. Parce qu'effectivement, vu la configuration des lieux, et on le voit tous, l'eau de Saint-Sauveur arrive là. Donc c'est au moins du 500 mm, voire du 600 mm. Bon, ça a été... là, les devis ont été faits en fonction de ça, pour avoir ce type-là. Donc là, il y aurait ces travaux-là qui sont faits, et qui vont venir... Alors on a encore... Bon. Qui vont venir compléter... les travaux de voirie, route de Saint-Sauveur et route de la Mabonnerie, c'est-à-dire les 730 mètres entre le centre équestre et le château de la Mabonnerie, qui vont être refaits. Et on va essayer, justement, enfin, on va coordonner toutes ces opérations-là pour pénaliser au minimum les gens qui habitent à la Mabonnerie, et puis même les habitants de Saint-Sauveur, etc., qui ont besoin de venir à la déchetterie, pour ne prendre qu'un exemple, ou venir chez Line Sport, ce qui est... très bien aussi, voire aller ailleurs. En tout état de cause, on va avoir vraiment un très gros programme de travaux sur toute cette zone-là. Donc là, 2019. Donc on est en train d'en parler, enfin voilà, c'est en train de se régler. On n'a pas trop de problèmes là-dessus, je pense. Hein, c'est bon, voilà.
Les marchés vont sortir.
Voilà. Bon, on a une demande de DETR sur en particulier le pluvial. Bon, j'espère qu'on l'aura. Voilà pour cet aspect-là. Sur les réseaux, alors je voudrais quand même ajouter quelque chose, parce qu'on a eu quand même le problème de la rue de Saint-Ine, où on a eu l'effondrement auquel on a dû faire face. Il reste à faire, et ça va aussi être fait en 2019, mais on ne l'a pas mis là, parce que ce n'est pas nous qui allons conduire les travaux, même si de toute façon, en termes de charge de travail, à un moment donné, forcément, on va être impacté. Il y a d'abord la traversée de... La traversée de la départementale, qui est à faire, qui sera faite au cœur de l'été, à un moment où il y a le moins de circulation possible, parce que là, il va falloir opérer en tranchée ouverte, c'est-à-dire qu'il faut tout interrompre et faire passer les gens vers la CD200 ou ailleurs. Bon, l'opération ne devrait durer qu'une grosse semaine, puisque l'espace à faire n'est pas très important. Néanmoins, c'est très impactant et la mise en place de déviations, etc., qui sont complexes. Sur un autre sujet, parce que là, on a quand même été très inquiets, on a donc lancé des inspections caméras, dans tous les sens, en accord avec l'ARC, qui s'en est occupé. La rue Saint-Pierre a donc subi une inspection caméra depuis Damiette jusqu'à la rue Jean-Dours, d'accord. Il y a eu également une inspection caméra récente qui a été faite rue Jean-Dours. Il apparaît à la suite de ça qu'on est très limite, mais pour la rue Saint-Pierre, sur le secteur que j'ai mentionné, le travail en chemisage est encore jouable, à condition qu'on le fasse le plus vite possible. C'est encore jouable à l'heure actuelle. On ne peut plus attendre. Dixit, les services de l'ARC, on ne peut plus attendre. Quand ils ont vu ça, ils ont dit c'est maintenant ou jamais. Donc je pense que même si on doit le faire en 2019, entre ça, une intervention en chemisage qui est beaucoup moins pénalisante, puisque la rue n'est pas fermée, peut-être très ponctuellement, mais en tout cas n'est pas fermée, il y aura des restrictions de stationnement, évidemment, mais elle ne sera pas fermée. Vaut mieux le faire en chemisage.
C'est ça, quoi du chemisage ?
Le chemisage, c'est ce qui a été fait sur certaines portions de la rue, la rue Juliette Adam. La première partie, si vous vous souvenez, a été faite en tranchée ouverte. On remplace donc toute la canalisation centrale, parce qu'elle est dans un tel état que c'est plus possible. Et l'autre partie a été faite en chemisage. Donc chemisage, en fait, vous mettez une gaine à l'intérieur, d'accord ? Mettez une gaine à l'intérieur que vous glissez. Bon, il y a des systèmes pour la plaquer par pression, etc. Sur l'intérieur de la canalisation. Et après, il y a une polymérisation qui est faite par rayon ultraviolet. Le résultat, c'est que ce chemisage est plus solide qu'une canalisation neuve. C'est plus solide. Néanmoins, pour réaliser cette opération, il est nécessaire que la canalisation qui sert finalement de support soit encore dans un état qui l'accepte. Voilà. Donc là, c'est pour ça qu'on nous dit c'est maintenant ou jamais. Donc soit vous faites maintenant comme ça, soit on fera tout en tranchée ouverte. Bon, l'ARC n'est pas d'accord parce que d'abord, ce n'est pas le même prix en tranchée ouverte et en chemisage. Ensuite, ce n'est pas la même durée. Enfin, ça joue aussi sur le prix. Ensuite, du point de vue de la nuisance des riverains, là, les vibrations, il n'y en a quasiment pas, hein, marteau piqueur, etc. Le bruit, c'est pareil, c'est très silencieux. Et comment ? Et le délai est plus court. Enfin, on est gagnant de partout. Alors, il vaut mieux le faire maintenant. Et ils vont même en profiter pour faire une inspection caméra sur le reste de la rue Saint-Pierre. Et s'il s'avère qu'on n'est pas en état plus mauvais que ce qu'ils ont vu là, ils vont sans doute faire le chemisage sur la totalité de la rue pour être tranquille. Par contre,
le reste, ça doit être mauvais, hein, parce que au niveau de chez moi, c'est vraiment...
Ben, on va voir. Par contre, sur la rue Jean-Dours, là, il faut tout refaire en canalisation, en tranchée ouverte.
C'est sûr. C'était dans les urgences de l'agence de l'eau, la région de Jean-Dours.
Quand ils ont vu l'inspection caméra, il faut tout refaire en tranchée ouverte. Donc là, on peut attendre un petit peu. puisque de toute façon, c'est en tranchée ouverte, c'est en tranchée ouverte. Bon, ça devrait tenir encore un ou deux ans. Je pense qu'on peut se baser sur du 2020. Par contre, là où on peut encore le faire en chemisage, il faut le faire tout de suite, quoi. On est tous gagnants dans cette affaire-là. On a tous intérêt. Même s'il y aura un peu de gêne en 2019, je ne le nie pas. Mais de toute façon, si ce n'est pas en 2019 et que c'est prêt à s'écrouler, ce sera en 2020 ou 2021. Et là, on ouvrira la rue sur toutes. Bon, donc, voilà, je voulais quand même vous parler de cette affaire-là. Je ne l'ai pas marqué là. Ah si. En ce moment, on regarde quand même deux sujets qui ne sont pas marqués sur les planches là. C'est l'acquisition d'un radar de contrôle de vitesse pour la police municipale. Parce que nous avons jusqu'à aujourd'hui une convention avec la ville de Béthisy-Saint-Pierre, mais ça ne fonctionne pas toujours bien. Vous savez que ce genre de système, il faut les faire contrôler tous les ans, annuellement. Bon, là, on rencontre parfois des périodes où on ne peut pas s'en servir parce que voilà, ce n'est pas envoyé aux mesures, contrôle et mesures. Donc on va peut-être regarder pour en acheter un nous-mêmes et être tranquille. C'est vrai que ces systèmes-là sont maintenant beaucoup plus performants. Vous avez des petites jumelles qui permettent de faire ça. Bon, c'est quand même un investissement de l'ordre de 4000 euros. Mais je pense qu'on voit tellement de choses sur les routes, et en particulier en agglomération, que ça vaut peut-être... Enfin, on va regarder si on peut le faire, cette affaire-là. Et ensuite, on est en train de regarder une autre affaire pour laquelle on va avoir un chiffrage. C'est la mise en place de filets au fond du terrain de football. Alors, c'est deux opérations qui n'ont rien à voir, hein, mais il y a une partie des filets qui sont un peu tombés. Et puis, on va compléter ça, on attend le devis. Tout ce que j'ai cité là, il est évident qu'on est en train de regarder de près, parce que Madame Javelot me faisait remarquer qu'on serait peut-être obligé d'écarter un ou deux projets pour équilibrer notre budget. J'avoue que l'histoire de la rue des Remparts, de l'école de la rue des Remparts, de 417 000 euros de vie, tout en bois, ce qui ne nous arrange pas du tout, parce que non seulement on aura un problème à l'investissement, mais derrière on aura aussi un problème à l'entretien, d'autant plus que l'entretien il faudra le faire plus fréquemment, et que pour faire de l'entretien à l'école des Remparts, il faut systématiquement des nacelles, puisque tout est en hauteur. Donc, bonjour le travail. Donc là, ça nous place dans une situation un peu difficile, cette histoire de l'école des Remparts. Bon, donc voilà, je vous l'annonce et je vous le dis là, il est possible qu'on écarte un ou deux projets de cette affaire-là, et on regarde ça de près. Madame Javelot a eu la gentillesse de tirer mon attention, ou notre attention, sur ce sujet-là. Voilà. Oui, alors je vais me parler après. Alors, en termes aussi de changement dans la commune, dès qu'on est là, on va aussi procéder, et on a eu les autorisations du conseil départemental, on va interdire aux camions de plus de 20 tonnes de tourner à gauche au niveau du feu du Capi, donc et de Diamiette. Interdiction de tourner à gauche pour les semi-remorques, qui ont arraché d'ailleurs notre... nos poteaux qu'on avait mis, et on espère sur un autre plan que ça entraînera une diminution du nombre de camions de type semi-remorque qui circulent rue Saint-Pierre. Je rappelle qu'au comptage que l'on a fait sur cette rue à sens unique, en faisant une moyenne du lundi au vendredi, parce qu'on peut faire une moyenne du lundi au dimanche, mais bon, on comprend bien que le samedi et le dimanche, il y a une circulation qui n'a rien à voir avec les quatre autres jours. Donc, lorsqu'on fait sur les 5 jours, on est quand même à une circulation de l'ordre de 7200-7300 véhicules par jour. Dont un nombre, un pourcentage tout à fait significatif de poids lourds. En particulier, et de poids lourds de semi-remorque. Bon, voilà. Et de même, on va interdire de tourner cette fois-ci à droite pour les camions qui arrivent par la rue du Port et qui donc partiront plus loin et feront peut-être demi-tour, feront peut-être pas demi-tour, auront point Pierre Bataille, mais ça, c'est une... on verra. Voilà. On va toujours tester, mettre en place ces mesures-là pour lesquelles, encore une fois, nous avons consulté la préfecture, nous avons consulté le conseil départemental et au moins pour ça, on a eu l'autorisation. Bon, voilà, parce que je rappelle que ces routes-là sont des routes départementales, sauf la rue du Port, qui n'en est pas une, mais qui aujourd'hui, quand on y voit la circulation, c'est en gros la circulation d'une départementale. L'idée initiale, c'était d'interdire cette route aux poids lourds, mais là, le conseil départemental m'a montré les articles de loi et m'a dit qu'il n'en était pas question. Voilà. Hein, m'a montré les articles de loi, vous êtes contraint à laisser une circulation, etc. Bon, enfin bref. Donc on en est là aujourd'hui. Voilà, on va procéder à cette à la mise en place de ce point-là. Voilà, ça c'est à titre d'information. Sur les autres aspects, donc la commune au sein de la. Donc on voit qu'on a le transfert au 1er janvier 2019 de la compétence alimentation en eau potable, que j'ai évoqué tout à l'heure, et puisque le CIVOM, il ne lui resterait que le pluvial. Le pluvial, on se l'est transféré dans les communes au dernier conseil municipal ou à celui d'avant ? Au celui d'avant, oui, bon, enfin bref, on vient de se le faire au conseil municipal. Donc le CIVOM est donc dissous. Je ne sais pas si on a eu tous les documents de dissolution, mais...
On n'a pas eu l'arrêté du préfet.
Voilà, mais bon, ça va être dissous. Deuxième axe de la commune au sein de l'ARC, c'est évidemment la mutualisation. Donc je ne reviens pas sur la direction commune des systèmes d'information, mais on est au tout début de l'étude d'une mutualisation dans le domaine événementiel et dans le domaine du contrôle des poteaux et bouches à incendie, puisque vous savez que maintenant les pompiers ne peuvent plus le faire. Il faut donc faire appel à arrêté de la Cour d'État, puisqu'on ne peut pas être à la fois pompier qui intervient pour éteindre l'incendie et, quelque part, partie prenante dans la définition du... Enfin, on ne peut pas être juge et partie. Voilà. En gros, c'est ça. Toujours être... Bon, il y a des logiques là-dedans. Les pompiers, c'était quand même pas mal. Mais bon. De toute façon, là, on n'a pas notre mot à dire. Donc, il est possible, soit qu'on fasse une mutualisation... soit que ce soit l'agglomération qui reprenne elle-même la compétence. Mais si l'agglomération reprend la compétence, ne vous faites pas d'illusions, derrière, on reverra les attributions de compensation, puisque nous allons transférer une compétence à l'ARC, et qui donc va nous faire payer sous forme d'une diminution de nos attributions de compensation. Bien. L'urbanisme. Donc on a arrêté le PLUIH à la dernière réunion du conseil municipal. Les 21 autres communes sont en train de faire de même après que l'agglo l'ait faite le 7 février. L'enquête publique devrait avoir lieu en juin et ce serait un document opposable fin 2019, début 2020. Je l'ai déjà dit l'autre jour, mais je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, c'est un calendrier qui était extrêmement lourd pour nous tous. On a travaillé en commission d'urbanisme, on y a passé des heures et des heures. Surtout compte tenu du calendrier qui était imposé, mais si on n'a pas de document opposable fin 2019, début 2020, les communes de l'agglomération qui sont encore sous le régime des plans d'occupation des sols tomberont sous le régime du règlement national d'urbanisme qui est lui extrêmement contraignant pour ces communes qui subiraient ce problème. Donc on est tous solidaires pour quelque part qu'on respecte le calendrier donné. Dans ce cadre-là, l'ARC avait lancé aussi une étude sur le ruissellement des eaux. Alors maintenant, il y a une étude minimale qui est obligatoire dans le cadre du PLUIH. Donc celle-là, elle est menée, elle est faite. Elle figure d'ailleurs au PLUIH. Par contre, là, l'ARC va beaucoup plus loin. Dans une deuxième phase, elle fait une étude complète sur les 22 communes pour nous conseiller sur les mesures à prendre, sur les endroits où on a des difficultés. Nous, dans ce domaine-là, je rappelle simplement que on avait un très gros problème sur le bas de la rue de Paris, que ce très gros problème, je ne dis pas qu'il est complètement réglé, parce que, mais je dis néanmoins que la réouverture du pluvial qui était dans le virage, là, et qui va jusqu'à la maison de retraite et au petit bâtiment qui est un peu plus loin, le lavoir, là, ça a quand même considérablement amélioré les choses, hein, parce qu'il y a quand même un 350... qui est tout le long et qui permet d'évacuer. Ça a vraiment considérablement amélioré les choses. Il nous reste encore des points à améliorer sur la commune, dont des points où je n'ai pas trop de solutions. Donc on va regarder ce qu'ils vont nous conseiller. Je pense notamment à la partie qui est derrière la rue. J'ai toujours du mal à me souvenir du nom de ce monsieur.
Alexis Carrel.
Alexis Carrel. Voilà. Là, derrière, on a énormément d'eau qui coule. Et derrière, l'évacuation n'est pas simple à trouver. On a d'autres petits points comme ça dans la commune où on doit régler les choses. Transport. Donc le transport, l'Arc Express fonctionne très bien. C'est pas marqué là, mais tous les comptages qui sont faits, etc., disent que ça marche très bien. Et l'agglomération est plutôt en train de le renforcer qu'en train de le diminuer. Donc tout ça va très bien. Elle va même mettre en place un essai de 4 mois pour ramener des personnes des 5 autres communes de l'ex-CCBA sur Verberie. Bon, voilà, ça va être un essai de 4 mois. C'est indiqué d'ailleurs là. Ok. Sur les déchets, on a donc l'étude de collecte des déchets et la mise en place d'une tarification unique sur l'agglomération qui va démarrer. Et au 1er janvier 2020, on transférera la compétence eau pluviale à l'agglomération. Voilà pour ce qui va se faire avec l'ARC notamment. Réflexion en cours et projet. Bon, poursuite du programme ADAP sur les bâtiments. Bon, on n'a pas le choix. Restauration de l'église. On a quand même un... Alors, pas tout, mais on a un premier, des premiers travaux qui pourraient être faits, notamment sur la structure. Donc ça, il faut qu'on en regarde de près. En gros, c'est 100 et quelques mille euros. Bon, on regarde de près. Il y a déjà des choses qui ont été lancées pour voir comment on peut se faire subventionner ces affaires-là. La réflexion et l'extension de la salle des sports Les Alouettes, donc en partenariat avec l'ARC, qui paierait l'extension dans son intégralité. La poursuite des réflexions sur le château, bon, c'est la bibliothèque médiathèque dont on parlait tout à l'heure. C'est aussi l'extension de la crèche qui permettra pas forcément d'augmenter le nombre d'enfants, mais qui permettra de répondre aux normes pour tous, notamment qui est personnel, qui est là-bas. Parce que, par exemple, pour les toilettes, c'est pas terrible, là-bas. Pour les personnels, j'entends, hein, pas pour les enfants. Voilà. L'aménagement des berges de l'Oise au niveau du port. Bon, ok. Je saute volontairement le prochain point parce que j'y reviens après. Le début du projet d'études urbaines avec Picardie Habitat, qui ces jours-ci doit enfin lancer la consultation pour la maîtrise d'œuvre, visant à concevoir un projet de réaménagement complet des espaces extérieurs des résidences Merlet, Yourcenar, près d'Aramon et Saint-Exupéry. La rénovation des Merlets, c'est en train de se terminer. Donc ça devrait être terminé pour le 1er avril, m'a-t-on dit. Peut-être qu'il y aura quelques jours de retard. Je crois qu'on en voit déjà beaucoup les bénéfices au niveau de tout ce qui est transition énergétique. Cette année, ce sera le tour des prés d'Aramon et de Saint-Exupéry, où les travaux vont être lancés. Déjà, il y a d'ailleurs, pour ce qui est prés d'Aramon, que nous on appelle Pompidou, pour Pompidou, ils ont déjà l'autorisation d'urbanisme est déjà obtenue. Donc on est dans la phase consultation, réponse et démarrage des travaux. Poursuite de la réflexion sur la remise en état des voiries et des réseaux. On devra s'interroger très rapidement sur ce qu'on fait sur la rue Jean d'Ours, puisqu'on va refaire rapidement tout ce qui est assainissement. Il faut bien avouer derrière que sur cette voirie, on a fait récemment des interventions. La voirie elle-même est quand même pas en bel état. Hein. Et puis maintenant, on est sur une voirie dédiée aux véhicules légers, puisque nous n'avons plus le problème de Gédimat. Nous n'avons plus que des véhicules légers, sauf des contrevenants qui emprunteraient cette rue. Le projet d'hébergement de loisirs sur les temps privés à l'entrée de la commune, donc à côté du parc nautique. Là, les porteurs de projets sont toujours là. D'ailleurs, ils ont suivi d'assez près tout ce qui était plan local d'urbanisme intercommunal. Ils sont satisfaits de ce qui est écrit dedans. Et on espère qu'on arrivera à maintenir ce qui est écrit dedans. Développement de mutualisation des services au sein de l'ARC. Donc j'ai déjà évoqué 3 sujets. Bon, après, on va peut-être aller plus loin sur d'autres sujets. Bon, on parlait de l'archivage numérique. Normalement, ça va en faire partie aussi. Je reviens sur un dernier sujet, parce que j'aimerais bien qu'on en débatte. C'est l'avenir de l'ensemble au mobilier du 13 rue Saint-Pierre. Donc, ancienne mairie et bâtiment annexe qui se trouve là. Parce que Une fois que la police municipale aura déménagé, ce bâtiment sera totalement vide. Un autre point qu'il faut prendre en considération, d'ailleurs on a fait une intervention, deux interventions récemment, on a bâché tout ce qui était ancien bâtiment du RAM, parce que de toute façon la toiture est dans un état pitoyable, c'est l'usure du temps, hein, donc voilà. Sur le bâtiment propre où était le siège de l'ex-SCBA, on voit que le toit et notamment les chiens assis sont en train de s'effondrer. Donc on a fait une intervention ce matin pour une entreprise pour au moins que ça se maintienne, sécurisé. Voilà le contexte où on est. N'oublions pas que dans tout ça, nous avons des ressources limitées. N'oublions pas que... on va avoir, alors sans doute pas 3 millions d'euros à faire au château, mais quand même au moins 2, à mon avis sûr, à faire. N'oublions pas que nous avons encore une partie de notre patrimoine à remettre. Si on s'est très bien occupé de deux écoles, et aujourd'hui on est vraiment sur les queues de trajectoire sur ces écoles-là, il nous en reste une troisième. On a fait quand même beaucoup de travaux, mais il reste un gros reste à faire. Je pense que l'adjoint aux affaires scolaires ne me dira pas l'inverse. Donc, on a aussi le centre social qui, lui, montre des faiblesses au niveau de la toiture. On a fait une petite intervention cette semaine, mais je pense que là aussi, on voit que le bâtiment est très, très vieillissant. Donc, quand on tient compte de tout ça, du contexte, voilà, il s'agit de savoir derrière ce qu'on veut faire de tout ça. Moi, je ne sais pas, je propose, j'ouvre la discussion. Et donc, il y a peut-être quelqu'un qui veut prendre la parole sur ce sujet-là. Je vous donnerai mon sentiment, moi, après. Mais, voilà. Je ne sais pas qui veut prendre la parole là-dessus. Oui.
Ce sont, moi, je dis, ce sont des bâtiments, que ce soit le centre social ou bien l'ancienne mairie, qui sont en position centrale dans la ville. Et un jour ou l'autre, on a toujours besoin de beaucoup, parce qu'on a toujours des associations, on a toujours besoin de beaucoup de plus en plus. Et se séparer pour de l'ancienne mairie, c'est fait partie du patrimoine. D'ailleurs, à propos du patrimoine, il y a une question que je voudrais poser. Pourquoi les crémones des fenêtres du château, alors si les fenêtres ont été changées à l'intérieur du château?
Oui, allez-y, j'écoute.
Il y avait des crémones 18e et pourquoi elles n'ont pas été remises sur les boiseries?
Bon.
Ah oui, non mais là, l'architecte des bâtiments de France ne serait peut-être pas très content.
Alors, l'architecte des bâtiments de France, pour le coup, comment?
Oui, il n'a pas ce qu'on va dire, puisque ça n'est pas passé. Enfin, par rapport au patrimoine de la ville, les crémones des portes, des fenêtres du château, crémones 18e, c'est quand même un peu embêtant. Elles n'y sont plus, elles ont disparu, elles ont été peut-être mises à la ferraille.
On regardera ça.
Mais bon.
Bon, on regardera ça. J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse en l'état. Est-ce que si?
Est-ce qu'on peut remettre des crémones 18e sur des fenêtres?
Non, on peut pas.
Mais... Ah, mais absolument si. Alors là, aucun problème. Alors là-dessus, je vous arrête tout de suite.
Je pense que c'est pas possible.
À quelle prix?
Que ça n'est pas possible?
Si, si, c'est possible.
C'est possible, mais à quel prix?
Elle sort un peu. Non, il y a deux sorties en route, ils sont pas au milieu. Non, mais attendez, je n'ai pas le problème, moi je les ai.
Elle reste en déco.
Ouais, il faut voir. Faut voir les artisans qui ont fait ça.
Et ça ne coûte pas, hein, puisque ça ne vous a même pas les crémantes, vous avez juste à démonter les tuyaux, les vis du bas et les vis du milieu.
Là, j'ai pas...
non, bref, ça, c'est ça.
Voilà, je n'ai pas la réponse à votre question et on va regarder ça.
Le centre,
ils
étaient restés dans l'urgence.
Elles sont parties avec les fenêtres, quoi. Je n'ai pas prévu au marché. Je veux bien, mais attendez. Vous savez combien ça vaut, des crémantes comme ça?
Non, plus très cher.
Ben, ça vaut entre 3500, entre 350€ et 500€ une crémone. Bon. Et ça, c'est sur les prix. Bon, alors, et ça, ça fait partie du patrimoine. Effectivement, c'est partie du patrimoine. Bon, quant à l'ancienne mairie, je pense aussi que ça fait partie du patrimoine historique. Autant le centre social et que c'est beaucoup plus tardif. Mais l'ancienne mairie fait partie du patrimoine, même si c'est mal conçu, même si effectivement
Il y a en dessous les prisons, les anciennes prisons, mais ce patrimoine, qui est un patrimoine historique, doit rester à la ville. Alors le reste, je ne dis pas. Hein. Bon, je sais que au fur et à mesure, on vend. Mais il y a peut-être un patrimoine qui doit rester. Et ce patrimoine-là, moi, je veux dire qu'il doit rester.
À quel coût aussi ?
Ah, bah, quel coût ? Le château, à quel coût ?
Non, mais tout à un coût. Oui, non, mais là, c'est un coût énorme.
Non, mais. Hey.
Qu'est-ce qu'on en fait ?
Quand on a eu le pigeonnier, quand le pigeonnier a été refait, certains ont dit qu'il y a un coût. Bon, effectivement, non, la solution, c'était aussi.
C'est pas au même niveau.
Le pigeonnier, comparatif pigeonnier et mairie.
Qu'on chiffre le montant des travaux.
En fait, c'est du solide. Hein.
Mais des travaux pour quoi faire ? Pour mettre quoi ? Avant de chiffrer, il faut savoir ce qu'on va y mettre.
Mais il faut toujours avoir du patrimoine d'avant, parce que vous avez, au moment où vous avez une association qui se monte, au moment où vous avez toujours besoin de locaux, et après, on va dire, non, je ne peux pas accueillir, on n'a pas de salle.
Enfin, bon,
aussi. Alors, il faut toujours avoir des salles d'avance.
On a aujourd'hui 3 millions de travaux en gros à faire dans le château. C'est à peu près ce qui a été chiffré, hein, si on veut le mettre aux normes. C'est ce que ça va coûter. Donc 3 millions d'euros sur un budget, il faut l'étaler. Donc on ne peut pas faire autre chose en attendant et on ne va pas pouvoir le faire en 3-4 ans. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, sur la mairie, il faut refaire toutes les toitures. Entièrement, toutes les toitures sont
l'ancienne
à refaire.
Mairie.
Dans l'ancienne mairie, je parle. Oui. Dans l'ancienne mairie. Il faut faire la toiture de l'ancienne école maternelle, il faut faire la toiture de la mairie. Il faut remettre aux normes, si on veut faire quelque chose dedans, il faut l'adapter à la DAP.
Oui.
Alors, que faire de ça sur le budget ? Comment on fait pour passer ça ? Alors là, il faut me l'expliquer. Et puis, il faudra me dire après combien de temps ça va rester vide ? Ce qu'on va en faire en entretien, parce qu'il faut l'entretenir. En attendant qu'il y ait des associations. Aujourd'hui, dans le château, si on remet le château dans les normes qu'il est, il est largement suffisant pour accueillir tout ce dont on a besoin. On est d'accord là-dessus. Il y a de la place au château. Aujourd'hui, il y a des étages.
Monsieur Plouvier, il y a peut-être des exemples de personnes qui attendent des salles.
Moi, je veux bien Patrick, aller dans ton sens. Certes, si on veut conserver du patrimoine, mais qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir le financer, ça ? Pour pouvoir le financer. Et il faut y trouver après des solutions pour y mettre quoi ? Voilà, qu'est-ce qu'on en fait ?
Dans un contexte.
Il ne s'agit pas de dire on aura peut-être besoin un jour de ça. Il s'agit de dire aujourd'hui on va avoir besoin de ça et qu'est-ce qu'on va y mettre ? Parce qu'on ne peut pas se permettre de dire on va peut-être en avoir besoin. Moi je ne suis pas d'accord sur ça.
Non, c'est pas peut-être.
Non.
On en aura besoin parce que les populations augmentent, parce qu'il y a des nouvelles. Il y a des nouveaux besoins parce que.
Je ne le pense pas.
Lequel ?
C'est comme les écoles, il faut toujours avoir une place d'avance pour pouvoir accueillir si une ouverture.
C'est autre chose, les écoles. Mais là, on est sur un local qui n'est plus en état. On aura un local qui soit en état, qui aurait été entretenu. D'accord, on aurait pu conserver quelque chose et en faire quelque chose. Donc, à condition d'en avoir encore l'utilité. Parce que si on a des locaux et qu'ils restent fermés pendant des années, je ne vois vraiment pas l'utilité. Enfin, moi, c'est mon
qui vont impacter le budget de fonctionnement, voilà. Nécessairement.
Alors, peut-être que quelqu'un, maintenant, a des idées pour y mettre quelque chose dedans, mais il faut me le dire.
Oui, aujourd'hui, la mairie existe aujourd'hui. C'est bien parce qu'à un moment, on l'a gardée, et pendant des années, elle est restée vide. Hein. Et à un moment, effectivement, on a eu la trésorerie. Et cette mairie a été faite. À une époque, il y avait été aussi question de la vente. Et on a dit, non, on ne la vend pas parce que c'est du patrimoine communal et qu'un jour, on pourra y faire quelque chose. Et si on n'avait pas eu cette optique, ici, ça n'aurait pas été fait puisque ça aurait été vendu. C'est resté vide pendant.
Très longtemps.
6 ou 7 ans, ou 8 ans.
C'est un squat, hein, hein, pour un moment.
Hein, c'est vrai que.
C'était pas un squat, on avait logé des gens, c'était pas un squat. Oui, mais on avait.
Désolé, mais c'était un squat.
On avait logé des gens.
À un moment, c'était.
C'est un squat quand même. De toute façon, c'était tellement insalubre que c'était un squat.
Mais la problème, c'est heureusement qu'on l'avait gardé. Parce que ce bâtiment, pour moi, c'est un bâtiment historique aussi. Et qu'il aurait été question à un moment de le raser. Il était question de le raser. Parce que soi-disant que la structure est ceci et cela. Bon, toujours est-il qu'aujourd'hui le bâtiment est là. Et moi, je suis très content que ce bâtiment historique, qui est beau, existe encore. Bon, voilà ce que je dis. C'est tout pour moi. Ça s'arrête là maintenant. Alors, chacun a ses visions.
Quand on a les moyens de le faire,
on conserve certains patrimoines.
Je voudrais,
on est en meilleure situation financière, bah, on fait.
Je voudrais quand même rappeler, vous disiez tout à l'heure, le jour où on a eu la trésorerie, on l'a fait. Je voudrais dire que quand même, on a endetté la commune au travers du bail à équipement pendant jusqu'en 2040 et quelques, pendant 32 ans.
Pendant 32 ans.
Et en face, c'est pareil.
Pas tout à fait, d'ailleurs.
Je pense que ce serait monté à ce pays-là, surtout pour ce qui a été fait là-dedans. Ou arrêter le sidéra.
Mais
il y a des moments, ça.
Arrête.
Vous savez, aujourd'hui, on regardait d'ailleurs comment on s'était désendetté sur le. Alors, c'est pas un prêt, parce que c'est le bail à équipement. Comment on s'était désendetté sur le capital. Aujourd'hui, on n'a pratiquement pas de désendettement sur le capital. Au jour d'aujourd'hui, sur le bail à construction, ce que l'on paie, les 100 000 euros tous les ans, c'est à 90% des intérêts.
Mais forcément, puisque c'est une forme de leasing. Non, mais attendez, là, vous mélangez, vous confondez.
Ah non, je ne comprends pas.
Avec
la
bail à construction, il y en a un sur investissement, l'autre sur fonctionnement. Bon, alors effectivement, on ne peut pas mélanger les cochons avec les vaches, ça c'est sûr.
Non, je ne peux pas être d'accord avec vous, parce qu'aujourd'hui, même s'il y a une partie qui est en fonctionnement, tout est en fonctionnement sur le bail. Tout est en fonctionnement, il n'en reste pas moins que c'est une dépense obligatoire. Donc,
mais lorsque vous faites un emprunt, c'est aussi une dépense obligatoire.
Je suis d'accord. C'est pour ça que je dis que c'est bien que ce soit du fonctionnement.
On s'éloigne du sujet. La mairie avait été vendue aussi en disant, bon, de toute façon, il est en ruine, et à un moment, il était qui on parlait de la vente, effectivement, la mairie qui avait une position centrale entre la place du marché, l'ancienne place du marché et la Julien Bernand, a une position stratégique. Bon, et pour faire quoi ? Une mairie moderne, peut-être plus adaptée, c'est vrai, mais qui n'aurait pas le charme de cette mairie. Bon. Et le bâtiment, l'ancienne mairie est un bâtiment historique. L'ancienne prévôté, c'est l'ancienne prévôté.
Un bâtiment moins cher parce que ça coûte là maintenant.
Maintenant, chacun a ses idées.
Tout ce que je faisais remarquer, c'est que effectivement, ça s'est fait sur un endettement sur la commune qui va se prolonger sur 32 ans. Après, est-ce que c'était un choix judicieux ou pas ? J'en sais rien. C'est vrai que si à ce moment-là, on a vu la trésorerie pour le faire sans passer par le bail à équipement ou à construction, ça aurait été de loin très très préférable. Regardez.
Oubliez de dire sur le sujet, c'est qu'il y a aussi une provision qui est faite sur les 100 000 euros, puisque à la fin, ils doivent le bailleur doit vous rendre dans l'état. Vous l'avez pris.
Quand on voit l'état, je suis inquiet.
La provision n'est pas très importante.
Non.
Quand je vois l'état du bâtiment là, je suis vraiment inquiet pour l'avenir.
Et puis on est quand même tenu, puisqu'on vient de vivre le truc avec le fait qu'on ne soit pas propriétaire, puisque on souhaitait mettre le poste de police municipale dans le local juste à côté, et que comme la société à qui on donne un loyer a le monopole, nous présente une facture, mais c'est même plus exorbitant à ce prix-là.
000 euros.
Voilà, puisqu'elle sait que de toute façon, soit on passe par eux, soit on ne peut pas le faire. Donc, si le montage avait été différent avec un prêt, on serait propriétaire et auquel cas on aurait pu faire ce qu'on avait à faire.
Pour en revenir à la mairie, je pense qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui a peut-être des idées là-dessus, non ? S'agit pas effectivement, comme dit Patrick, il faut garder le patrimoine, mais tu mets 300-400 000 euros de travaux encore dans la mairie, puis il faut les trouver, quoi.
Moi, je me souviens d'un conseil municipal où on avait déjà évoqué le sujet, où il y avait des personnes qui étaient contre le fait de vendre, ce qui peut tout à fait... Michel avait demandé donc à proposer, enfin à faire des propositions, mais des propositions chiffrées. Donc aujourd'hui, sauf erreur, on n'a pas eu de proposition. Moi, ce que je me permets de rajouter, c'est qu'au niveau des écoles, vous parliez de patrimoine tout à l'heure, M. Floury, on a quand même encore deux Algéco, deux classes qui sont dans des Algéco. Des Algéco, on sait que c'est normalement fait pour une durée limitée, provisoire. Voilà, il faudra à un moment donné passer par du dur, parce que des Algéco, c'est... Et puis ils sont quand même assez vieillissants, puisqu'on met des bouts de pansement. Une fois c'est les dalles, une fois c'est une fuite, une fois c'est une fenêtre, une fois c'est une porte, enfin... Bon, après, c'est bien de garder. Hein. C'est vrai que les Algéco, c'est aussi historique et c'est sympa. Mais après, en termes de confort, c'est pas tip-top quand même. Quoi. C'est pas tip-top.
Consommation de chauffage.
Certaines personnes nous reprochent, nous reprochent de vendre les biens de la commune. Mais est-ce qu'il vaut mieux, aujourd'hui, par exemple, avoir la maison médicale telle qu'elle est, plutôt que d'avoir le hangar comme on l'avait ?
L'immeuble des remparts.
Est-ce qu'au niveau de la commune, c'est mieux ou pas ? Voilà, par exemple. Voilà.
Mais là,
D'accord. Bon, ben là.
C'était un bâtiment qui.
Voilà. Oui, mais à l'époque,
qui était dans son jus.
On nous a quand même dit, oui, vous vendez.
Historique.
Ça a été dit. Hein, ça a même été écrit. Voilà. Vous vendez des biens.
Vous pouvez aussi vendre la maison qui est en face.
Oui, mais en fait.
Bon, non, parce que vous avez aperçu.
Bah, on a réfléchi, bien sûr.
Ça a été un cas de force majeure.
Il était question de vendre la maison en face médicale. Il était bien question de vendre.
Initialement, mais.
Bon, initialement. Après, vous êtes aperçu que non, qu'on fait, ce serait bien.
Avec les commandisteurs du bas qui est là, on n'a pas pu faire le poste de police dans la mairie, il a bien fallu trouver un autre local. Comme cette maison n'était pas vendue, on a préféré les garder pour le faire. Mais s'il avait pu se faire là, la maison aurait été vendue.
Du moins, aujourd'hui, de toute façon, le choix où est mis le poste de police, c'est très bien. Ça convient, à tout le monde.
Ça fait pas débat. Je dis que c'est pour ça qu'il faut garder certains bâtiments, parce qu'un jour ou l'autre, on a besoin...
Mais il y aura aussi le bâtiment social. Il y a aussi centre social.
Il faut pouvoir les garder. Moi, je le demande
financièrement.
Je pense que tout le monde ici serait d'accord pour pouvoir le conserver, mais comment... Est-ce qu'on peut le conserver dans l'état où il est ? La question, elle est là. La question, est-ce qu'on peut le conserver dans l'état où il est sans y faire de travaux ? Moi, je dis non, c'est pas possible.
Mais les murs, ils sont
épais
comme ça.
Mais la toiture,
elle est en train de s'effondrer. Il faut lever la tête, hein.
La toiture, c'est pas 400 000 euros.
C'est les deux toitures.
La toiture, l'électricité, la mise aux normes handicapées, le chauffage, les portes, les fenêtres.
Je parle pas du bâtiment du fond,
Le bâtiment du fond, il va avec.
C'est l'ensemble immobilier, monsieur Floury, c'est pas.
L'ancienne prévôté.
Oui, mais l'ancienne prévôté, elle va avec le fond. On peut pas les dissocier.
Est-ce qu'on en fait un bâtiment comme Notre-Dame des Monts?
La
preuve d'ailleurs, c'est que l'entrée de la mairie.
On fait Notre-Dame des Monts en plein centre-ville.
Ça montre bien qu'on peut dissocier. Puisque au-dessus du porche, ça appartient à l'hôtel d'Aramon.
Oui, enfin, après, il faut avoir des ensembles aussi, si on parle de vente, qui se prêtent à la vente. Et derrière, de toute façon, s'il y a une vente, enfin, on a toujours, et on l'a montré avec la revente du bâtiment qui était le bâtiment des personnels des écoles, on a derrière le souci constant qu'on ne fait pas, dans une mairie, on ne fait pas une affaire financière, uniquement financière, on fait une affaire d'urbanisme et une affaire financière. Mais les deux sont bien à prendre en compte. Affaire d'urbanisme et affaire financière, parce qu'il s'agit d'améliorer effectivement la ville et la structure de la ville et l'urbanisme de la ville. Donc ça, là-dessus, effectivement, il ne s'agit pas de vendre au plus offrant, comme ça, il faut que derrière, il y ait un projet, il faut que derrière, il y ait quelque chose qui soit de qualité. Ça, on est tout à fait... enfin là, c'est, de toute façon, c'était notre préoccupation constante. Hein. Il suffit de revoir les ventes qui ont été faites. Hein. C'est notre préoccupation constante. Donc oui, elle sera mise aussi en œuvre si jamais on vendait cet endroit-là.
On peut prendre l'exemple d'ailleurs de Compiègne, je suis en train de penser, avec l'école d'état-major, qui est un bâtiment historique.
Absolument.
Un bon bâtiment,
c'est un excellent comparatif.
Et voilà, le choix de la mairie a été, bah, il faut bien malheureusement passer autre chose. Ça n'a pas dû être facile d'ailleurs pour les gens qui ont exercé
le Hara, le Hara à Compiègne, le Hara national.
Les gens n'appartenaient pas à la ville. Hein.
Le Hara national va être modifié. Va être revendu, puisqu'il a été racheté par l'ARC.
Oui.
Et il y a un projet qui est mis en place actuellement par les Compiègnes d'y faire des logements. Hein.
Et là, ils ne gardent pas. Typiquement, si on garde Compiègnes, ils ont acheté cette affaire-là pour y transférer le musée automobile. Derrière, l'État n'a pas suivi. Aujourd'hui, ils ne disent pas je garde ce patrimoine.
Surtout qu'il y a déjà
ils le revendent et ils l'utilisent et ils vont avoir la même préoccupation que nous d'y faire quelque chose de qualité, évidemment, mais ils vont avoir la même préoccupation que la nôtre. Ils ne gardent pas un bâtiment vide.
Il est super bien placé. Il
y a longtemps qu'il est vide. Hein.
Comment ?
Il y a plein d'appartements.
Il y a longtemps qu'il est vide. Hein.
Oui, mais ils ont procédé à l'acquisition assez récemment. Elle a été l'acquisition.
Voilà. Oui, il y a deux ans. On était pas, ça doit être en 2016 parce qu'on n'était pas encore
juste,
dans.
Juste
avant qu'on rentre dans l'arc.
Et puis on a encore la maison du gardien au château. Enfin, pour moi, là. Oui, non, mais enfin, si tu prends encore.
Et puis il y aura le centre social qu'il faudra bien en faire quelque chose. Il faut garder le centre social, par contre. Ça, il ne faut pas s'en débarrasser.
Bon, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent apporter des éléments sur le débat ?
Ouais, enfin,
c'est une idée que je lance. Hein. Je pense qu'il serait intéressant sur ce sujet de faire un peu comme une commission. Ben voilà, des gens qui sont intéressés par le sujet puissent entrer dans la commission. Qu'on en discute tous ensemble, à la fois l'opposition et les membres de chez nous également. Voilà, pour qu'on en discute ouvertement, clairement. Chacun peut amener y réfléchir et puis amener ses idées. Hein, parce que. C'est quand même quelque chose d'un. Enfin, on ouvre le débat.
Après, on est dans un contexte quand même aujourd'hui, je pense que ça va durer un bout de temps, où de toute façon, on n'augmente pas les impôts, au contraire, on cherche à les réduire. On est dans le contexte où on nous demande de diminuer les budgets de fonctionnement. Voilà, on est quand même dans ce contexte-là, globalement. Après, on peut toujours avoir des personnes qui, je ne sais pas, qui, pour moi, qui rêvent, mais. Ça ne s'améliorera pas. Hein.
Mais je trouve ton idée intéressante
de faire une commission, oui.
De faire une commission,
oui. Ouvrir à tous ceux qui veulent
participer. Je pense quand même
que c'est un sujet important.
Quoi.
Il faudrait faudrait qu'on sache le coût de ce bâtiment. Combien aujourd'hui nous coûte la taxe foncière, le chauffage, les heures passées des agents municipaux.
Et puis qu'est-ce qu'on en fait surtout.
Et qu'est-ce qu'on en fait
qu'est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur pour occuper le bâtiment.
Il faut pas oublier qu'il y a un gros budget niveau accessibilité.
C'est ça, oui, mais accessibilité, pourquoi. Oui, mais accessibilité, pourquoi. Qu'est-ce qu'on en fait. Avant, il faut définir ce qu'on veut en faire.
Aujourd'hui, est-ce qu'on définit que le château d'Aramon, c'est le joyau du patrimoine de la commune. Voilà, on est d'accord. Je m'y attendais d'ailleurs.
Est-ce qu'on peut nous donner une
estimation de vente ?
Toujours demander une estimation de vente.
De vente.
Ah oui, on peut tout faire. Mais on a l'estimation. On l'a.
C'est combien ?
300 quelques minutes, 330.
Oui.
On a dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de ça ? Mais
pour
avoir acheté un truc pareil.
Pas utile.
Avec les 3
000
mètres carrés.
Mais l'époque, c'est pas la même.
Aujourd'hui, si tu as le château, c'est pas fort.
Ça fait de longues années
pour réhabiliter le château. Mais autrement, si je n'avais pas été acheté, il y aurait des pavillons dans le parc, j'ai 8 hectares du parc, et la société Devic qui avait signé le compromis de vente, le compromis d'achat, lui, il faisait même cadeau du château. Alors, je veux dire, il n'y avait plus de parc. Mais il y avait des pavillons tout autour sur les 8 hectares du château.
Mais sur ce sujet-là.
Alors, effectivement, ça, il a été acheté. Et après, bon, bah, il a été au parc de réhabilité. Et il a fallu près de 40 ans pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Et il y a encore 3 millions d'euros de travaux. Vous voyez, et il y en a eu plusieurs millions d'euros de travaux de fait déjà.
Bah, à un moment donné, il y a un patrimoine qu'on peut se permettre. Et il y a un patrimoine qu'on ne peut plus se permettre.
Petit patrimoine, attendez, c'est pas.
Oui, mais monsieur Fleury, c'est l'accumulation de petits patrimoines. Quand vous faites le cumul, c'est, pour moi, c'est pas la fonction d'une commune de cumuler du patrimoine. Il y a déjà les écoles, les deux mairies, si je prends celle-là, la grange, le centre social, la maison du château, l'ancienne perception, la cantine. Quand on a les moyens, on serait les premiers à dire il n'y a aucun problème. On peut même en faire un musée. Hein. Moi, il n'y a pas de problème. Hein. Pour les gamins, j'adorerais. Par contre, après, il y a la réalité des choses, des chiffres. Enfin,
alors. Bon, on est en discussion, on avait. Il y a Patrick Stéphane a fait une proposition qui est constituée une commission, un groupe de réflexion, c'est plutôt ça d'ailleurs. Groupe de réflexion pour voir comment on peut avancer sur ce sujet-là. Est-ce que tout le monde est d'accord sur ce point-là ?
Oui, moi aussi, je trouve que c'est une bonne idée.
Bon, on part sur ce sujet-là. Donc moi j'attends de votre part. Quand on est dans un groupe de. Voilà, exactement, que vous me disiez, les personnes du conseil municipal. Déjà le conseil municipal, quelles sont les personnes qui sont intéressées ? Donc je ne demande pas de réponse maintenant, vous avez le temps de la réflexion, mais voilà, quels sont ceux qui veulent consacrer du temps à un groupe de réflexion qui s'intéresse à cette affaire-là ? Voilà. Après, il faudra trouver des solutions réalistes dans le monde où on est.
Les personnes qui sont intéressées, vous m'envoyez vos candidatures.
Ouais,
mais il y a des gens
Il y a des absents.
Non, il y a des absents.
Je vais envoyer
d'ici le 11 avril.
Patrick, toi, t'as pas de boîte mail, mais je sais que t'es partant. Mais pour toutes les autres personnes et tous les membres du conseil municipal, je vais leur envoyer un mail, leur faisant la proposition, leur demandant de me répondre.
Ça me semble au moins on débouche sur quelque chose. Après, sachant qu'on n'est vraiment pas d'accord, mais ça c'est la vie. C'est la vie. Il n'y a pas eu de débat. Ah oui, est-ce qu'il y a. Alors, on a énuméré tout d'ordre. Bon, dans mon esprit, chacun pouvait intervenir à tout instant. Je pense que vous l'avez ressenti aussi comme ça. Est-ce que vous avez des sujets de débat sur le reste du DOB, tel qu'il a été présenté ? Je ne sais pas, vous avez posé des questions, etc. Mais c'est un débat de orientation budgétaire. Donc, moi, s'il y a d'autres sujets, ce sujet-là me semblait majeur. Je le dis simplement. Maintenant, ce n'est pas parce que moi, il me semblait majeur que d'autres personnes ne peuvent pas avoir d'autres sujets qu'ils veulent évoquer. Bon, on en reste là. On peut acter quand même que le débat a eu lieu. On a fait une présentation, on a montré où on va. Donc, voilà, je vous remercie. On a tout terminé, oui. Je vous remercie tous et on va donc lever la séance. Est-ce qu'il y a des questions particulières ? La séance est terminée. Est-ce qu'il y a des questions particulières ?